j'ai fait un gros coup de bluff dans la presse où en mai 2015 je dis aux journalistes du journal du dimanche je vais mettre 1000 scooters dans Paris avant fin 2016, d'accord, et à ce moment là on a 30 000 euros sur le compte.
Attends, il y a un journaliste qui est venu te voir en mode ah, je vais faire le petit reportage sur la petite startup qui
fait,
se porte.
Ouais, il nous fait une demi-page, tu vois, dans le journal du dimanche, et la mairie de Paris m'appelle le lundi, tu vois, en me disant oh mais ce projet nous intéresse beaucoup, on va vous aider, on va l'inaugurer devant la mairie de Paris, le bêta test, tout ça, etc. Et là je me dis ça y est, on va avoir de la presse, on va avoir de la com, on va se faire connaître, et peut-être que c'est le démarrage.
Peut-être que c'est le démarrage.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères des débuts, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces petits détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis David Baruchel, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans La Galère, je suis David Baruchel et aujourd'hui je suis en compagnie de Bertrand Fleurose, le fondateur de CityScoot, le meilleur selon moi hein, service de location de scooters électriques en libre service. Alors le meilleur, feu le meilleur, petite larme. Salut Bertrand, comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Désolé, avec cette intro là, c'est...
Écoute, hein, c'est la vie.
Ouais, c'est ça, c'est la vie. Et du coup, un épisode un petit peu spécial aujourd'hui, hein, puisqu'on va revenir évidemment sur les débuts de CityScoot et comment on fait pour lancer une start-up comme ça, parce que c'est pas les boîtes les plus faciles à lancer. Et puis, je pense qu'on prendra un petit peu de temps aussi pour raconter aussi les galères de la fin et faire honneur au nom du podcast, si ça te va.
Ça me va très bien. Allons-y.
Allons-y. Bah déjà, est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que c'était CityScoot?
Ouais, ouais. CityScoot, c'était le premier pionnier mondial hein, de service de location de scooters en libre, enfin en free floating, donc sans station. Donc, on a inventé ça en 2014-2015 à peu près. En parallèle, Coultra, que tout le monde connaît maintenant aujourd'hui, puisque le service, les clients de CityScoot ont été redirigés vers Coultra il y a quelques jours. En parallèle, Coultra était en train de faire la même chose à Barcelone et je crois que nos services sont sortis dans nos villes respectives à peu près au même moment. Donc c'est un service qui a déployé jusqu'à 7500 scooters dans 3 pays, environ 6 ou 7 villes, et qui a compté jusqu'à en tout, toutes villes confondues, pratiquement 500 000 clients. Voilà.
Et du coup, pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas, tu peux raconter un peu l'expérience CityScoot
Ouais, enfin, tu veux dire
Comment ça marchait quand on a utilisé
l'UX, ouais, bah oui, bien sûr. Donc, il suffisait de repérer sur son app. Donc, d'abord, il faut downloader une app, il faut montrer qu'on est capable de conduire un scooter. Donc, il y a tout un processus d'inscription qui était assez long au début, qui est devenu plus court après. Donc, on vérifiait tous les papiers. Que les scooters, évidemment, c'est pas comme une trottinette ou un vélo, c'est assuré, ils font un permis, etc. Puis ensuite, une fois qu'on a l'app, on a accès à la carte et donc une sorte de map où on voit tous les scooters qui sont libres, leur niveau de batterie, et il suffisait de cliquer sur un scoot et de mettre un code. C'était un peu spécial, CityScoot. Il fallait taper un code à 4 chiffres sur le clavier du scooter pour pouvoir le démarrer. Donc, une fois qu'on a repéré le scooter, on le réserve, on a 10 minutes. Au début, c'était 15, ensuite, on a réduit à 10, je crois, pour aller rejoindre le scoot. Et puis, on pouvait absolument se rendre où on voulait. Il suffisait de stationner dans un endroit qui était autorisé au scooter. Il se trouve que peu de gens le savaient, mais en fait, tous les scooters pouvaient se garer sur les places voitures. Et comme les gens ne le savaient pas, ils se garaient sur les trottoirs. Donc, ça a fait des histoires au début. Ça a attiré un petit peu de haine. Mais bon, je crois que maintenant c'est fini, ça se passe très bien. Et voilà, donc les gens se déplaçaient surtout pour leurs besoins professionnels et leurs rendez-vous de journée ou les déjeuners. C'était à peu près 70-30 professionnels.
70-30, ouais.
Ouais, ouais. Je pense que c'était même 75-25 entre pro et loisirs. Voilà.
Ok.
Et en tant que fervent utilisateur de CityScoot, si je résume l'expérience, c'était aussi un petit peu la liberté, hein, parce que c'était le kiff de se déplacer en scoot qui fait pas de bruit dans Paris, sans avoir besoin de gérer ton scoot dans la durée. Tu le prends, tu le lâches, devant là où tu t'allais.
Tu sais, hier soir, moi, pour la première fois, en fait, hier soir, j'ai atterri d'Espagne. J'étais à Orly et au moment où je suis dans le taxi, j'ai un copain qui me dit « Tiens, bah, pourquoi tu ne viens pas prendre l'apéro chez moi avant d'aller chez toi ?» Et je lui dis oui. J'ai une petite valise et tout. J'ai un bagage cabine. Je lui dis oui. Et là, je me dis « Ben non, je peux pas. Comment je vais faire de chez lui pour rentrer chez moi après ? Enfin, j'ai pas pris le métro depuis des années. Je sais pas comment on fait. Ou alors je prends un autre taxi. Et ce qui me paraissait évident avant, en fait, hier soir, bon, j'aurais pu utiliser Coultra. J'aurais pas de problème avec ça, mais j'ai pas l'app, en fait. Et là, tout d'un coup, le truc m'a paru super galère. Donc j'ai failli annuler de voir mes copains juste parce qu'il y avait plus CityScoot. Donc je pense qu'effectivement, il y aura une petite déchéance de liberté pour ceux qui étaient des aficionados de CityScoot. Je crois que ça va créer un petit vide, ouais.
Mais je pense que ma meilleure expérience, et après j'arrête avec les anecdotes perso, mais ça fait trop plaisir, c'est quand je me suis retrouvé un jour à Milan et j'avais 6 heures de transit à Milan et je sors de la gare, je vois des CityScoot, ouais. J'ouvre mon app, elle marche. Et en fait, je me suis pris un CityScoot et j'ai commencé à tourner dans Milan pour visiter la ville parce que j'avais pas énormément de temps.
Bah, c'était le but de CityScoot. Et ça, c'était dans pleine ville, en fait. Et que, un peu comme Uber, t'as l'app et tu l'utilises dans la ville où t'arrives. Donc, ça n'arrivera jamais. Peut-être que Coultra réussira ce pari-là, mais voilà. Pas avec CityScoot, en tout cas.
Bon, fantastique. Et juste pour faire un petit teaser de la fin, comment ça a fini, vu que tu parles au passé déjà de CityScoot?
Bah ouais, enfin ça a fini un petit peu tristement parce que bon, moi j'étais parti de la boîte début 2022 sur un fond de désaccord avec mon board, avec les acteurs, les investisseurs institutionnels de CityScoot. Dans une atmosphère où on attendait la réponse à l'appel d'offres de la mairie de Paris et on attendait que tous les feux repassent au vert, ce qui à mon avis est arrivé à peu près en premier ou deuxième trimestre 2023 ensuite, sachant que la réponse à l'appel d'offres de la mairie de Paris est arrivée en juillet ou en août 2023. Et là, je pensais que, sincèrement, CityScoot n'avait jamais gagné d'argent avant. Je pensais sincèrement que CityScoot allait redémarrer à ce moment-là. Mmh. Voilà. L'annonce par les dirigeants de CityScoot au mois de octobre, fin octobre, début novembre, d'un placement en redressement judiciaire, enfin en passant par une déclaration de cessation de paiement, a été un gros choc pour moi. Parce que je croyais que vraiment ils avaient touché le fond et qu'ils allaient maintenant rebondir. Et que je pensais qu'il n'y avait plus aucune raison de ne pas essayer de le soutenir quelques mois de plus. Et donc ça a été une grosse surprise. C'est pour ça que j'ai posté immédiatement dans LinkedIn un post qui était plus une réaction épidermique de l'annonce qu'un truc réfléchi. J'ai totalement improvisé le truc. Et je me suis dit, mais je me le suis pas dit fort parce que j'ai pas d'expérience là-dedans. Moi, c'était mon première expérience de redressement judiciaire ou d'avoir une ex-boîte qui plaçait en redressement judiciaire, une ex-boîte avec laquelle j'ai jamais vraiment coupé le cordon, tu vois. Et j'avais vraiment pas envie qu'elle s'arrête cette aventure parce que c'était pas le moment qu'elle s'arrête. C'était surtout ça. C'était qu'elle avait tenu, si tu veux, c'est un peu pour moi qu'elle avait couru 41 km d'un marathon et que là, au dernier kilomètre, le truc s'arrête. Tu vois, pour moi, c'était juste pas possible. Et s'il fallait que je sois celui qui lui fasse, qui prenne le relais pour le dernier kilomètre, bah, j'étais OK pour le faire. Ce poste que j'ai mis de façon totalement non calculée, il a été vu quasiment 1 million de fois. J'ai reçu des centaines de messages.
Petit poste d'un entrepreneur un petit peu énervé.
Un peu énervé, ouais. Moi, j'ai pas été tendre avec certains protagonistes de l'aventure, mais j'étais vraiment très énervé et j'ai trouvé que surtout c'était idiot, c'était pas le bon moment de le faire. Voilà. Et aujourd'hui encore là, on se parle tous les deux. je ne comprends pas ce qui s'est passé. Okay. Donc, je ne sais pas pourquoi, alors que la ville de Paris venait de nous octroyer une place, que tous les feux étaient au vert, que les scooters thermiques payaient le stationnement, etc. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, alors que c'était le dernier kilomètre, les investisseurs s'arrêteraient. Donc j'ai posté ça, j'ai reçu des centaines de messages de soutien, et puis pas mal, assez rapidement après le post, qui me disent « Mais Bertrand, porte un projet pour reprendre cette boîte. » Et moi je disais « Mais j'ai pas les sous. » Et on me disait bah, « il faut que tu trouves les sous et que tu essayes de sauver la boîte que tu as fondée et que tu aimes tant. » Et j'ai commencé à... Donc j'ai mis tout ce que j'étais en train de faire de côté, quelques projets que j'ai en cours. Et voilà, j'ai consacré 3 mois à fond, mais vraiment à fond, à essayer. J'ai donné tout ce que j'ai pu, à essayer de trouver les fonds nécessaires pour... Il en fallait pas beaucoup, hein. Quelques millions, je pense que l'affaire était sauvée. Mais j'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi. Donc ça s'est terminé avec une audience au tribunal où je suis arrivé devant le juge en lui disant « Monsieur le juge, j'ai pas les fonds. » J'espérais qu'il me dise bah, « Écoutez, est-ce que 2 semaines de plus vous aideront ?» Mais il l'a pas
proposé.
Non, je ne lui ai pas demandé. Poliment, je ne lui ai pas demandé. Il n'a pas proposé. Je pense que de toute façon, l'affaire était pliée. Je crois que je n'aurais pas pu trouver les fonds. Voilà.
Ouais. Ok. Bon, bah,
ça se termine tristement.
Ça se termine tristement, mais on va revenir un petit peu sur les détails de tout ça. Peut-être on va surtout faire un gros flashback et revenir au tout début. En fait, comment t'es arrivé là-dedans ? Toi, t'avais déjà monté un petit peu des boîtes avant, je crois. Hein ?
Ouais, moi j'ai eu 2 périodes dans ma vie. J'ai eu une période où j'ai fait de la finance, beaucoup, finance de marché. Donc j'ai travaillé sur des produits dérivés actions pour une société de bourse en France, puis pour 2 banques anglo-saxonnes. J'ai terminé ma carrière de finance en 2005 à peu près, après être passé à Londres pendant 5 ans. Et puis là, c'est peut-être à cause de mon père et de son père avant lui, son beau-père avant lui. Je fais partie de ceux, et je sais que peut-être ça va pas plaire à tout le monde, mais j'aime pas qu'on me dise trop ce que j'ai à faire. Donc soit on me fait confiance, soit on me fait pas confiance, mais si on me fait confiance, il faut pas qu'on me dise comment je fais ou ce que je dois faire. Donc il fallait absolument que je monte une entreprise. Moi, j'ai plutôt une âme d'entrepreneur. Et en fait, finalement, pour moi, ça a jamais été une galère de monter des entreprises. Donc j'ai monté des petits projets après ma carrière de finance. J'ai monté une boîte de vêtements de luxe pour enfants.
Qui
a pas du tout fonctionné. On a commencé par des ventes privées. Bon, ça a pas fonctionné. Ensuite, j'ai essayé de monter un projet qui redirigeait c'était à l'époque où les opérateurs ont payé à la minute le téléphone portable. Ouais. Tu sais, bon, c'est vieux, hein, je ne sais pas quel âge tu as, mais je ne sais pas si tu as connu ça. Et donc, j'avais créé une sorte d'aiguillage pour que les gens ils aient toujours la minute la moins chère. Bon, et enfin, ça, ouais. J'ai créé un projet qui voulait faire ça. Bon, ça a pas bien fonctionné, ça non plus. Ensuite, je n'avais plus rien à faire. Je suis devenu joueur professionnel de blackjack pendant 2 ans.
Ok.
Donc j'ai nourri ma famille avec ça pendant 2 ans à Londres. Donc j'allais de casino en casino. Voilà. Donc je comptais les cartes.
Finance et blackjack, quasiment pareil.
Tu comptais
les cartes.
Je comptais sérieusement les cartes, hein, ouais. Comme on voit dans les films. Donc ça marche plus aujourd'hui, on peut plus le faire, mais à une époque ça marchait encore. Donc j'ai un peu gagné ma vie comme ça. Et puis je suis rentré en France. J'ai continué à faire 2-3 ans de finance. Et puis à un moment, je me suis dit non, mais c'est pas possible, il faut que je monte des entreprises. Donc j'avais plusieurs idées. J'avais notamment une idée dans l'aide aux personnes âgées. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis j'avais aussi une idée de monter. Je voulais créer le Midas du scooter en France, tu vois. Centre de service, du Mas du 2 roues plutôt. Parce que j'avais un scooter à Paris, il n'y avait aucun service. Enfin, je trouvais que le service était tout à fait pourri. Puis quand tu rentres des pays anglo-saxons et que tu as été. Nourri par le service. Enfin, ils ont une notion, même si tu t'en rends pas compte, en fait, tu baignes dans le service en permanence. Et quand tu rentres en France, tu vois que c'est pas du tout un pays de service et qu'il y a un gros trou à remplir. Tu vois, je sais plus quel était l'entrepreneur qui disait, bah, si c'était le type qui a créé Netflix, là, qui disait, en fait, dans la vie, pour réussir, tu vois un trou, tu le remplis. D'accord ? Donc, moi, je suis arrivé à Paris, j'ai vu qu'il y a un trou là, j'ai essayé de le remplir. Ça a très bien marché. Alors moi, je ne connaissais rien. Je ne suis pas spécialement intéressé par les 2 roues, non, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi, j'avais mon scooter, je voulais rendre service, donc j'ai ouvert un centre de service. Finalement, ça n'a jamais été le Midas, mais ça a marché assez vite. sans que donc c'était un garage hein,
un garage ouais du coup
c'était un garage bon alors c'était un garage un peu spécial parce que c'était ouvert de 8h à 20h tous les jours on prêtait des scouts et tout donc c'était vraiment je voulais rendre service puis c'était un peu plus cher que la moyenne tu vois mais c'est pas grave les gens qui veulent du service ils payent plus cher d'ailleurs City Scoot c'est pas un service qui est spécialement donné tu vois mais qui rend vraiment bien service tu vois bon et donc bah voilà j'ai monté ce truc là et puis moi quand j'ai vu Autolib arriver alors après ça s'est transformé en bon j'ai ensuite ça j'en ai vendu d'occasion etc puis j'ai monté une société de location de scooters où j'ai commencé à louer des scooters électriques donc je me suis un petit peu intéressé à l'arrivée du scooter électrique donc là on est en 2011-2012 tu vois les scooters d'accord. électriques il n'y en ouais, a pas beaucoup, tu pas vois, beaucoup c'est non. confidentiel d'ailleurs ils ne sont pas connectés à cette époque là ils ont juste une batterie tu vois mais il n'y a pas de connectivité il n'y a rien et puis quand j'ai vu Autolib arriver je me suis dit mais Autolib Vélib ça ne m'a pas fait ça tu vois mais Autolib j'ai trouvé ça génial je l'ai utilisé une fois je trouvais que c'était dégueulasse donc j'ai utilisé qu'une seule fois mais j'ai trouvé que le concept était super et je me suis dit je vais faire quelque chose comme Autolib donc au début il y a des stations tu vois dans le projet City Scoot au début il y a des stations,
il y a des stations.
Ouais c'était des stations dans les parkings Indigo à l'époque ça s'appelait Vinci Park donc j'avais signé un contrat je me souviens qui m'avait fait passer des nuits blanches ce contrat avec Indigo
enfin, avec Vinci Park. Encore sur ta société de location de scoot
ouais en fait il y a eu une sorte de je sais pas non mais il y a eu un appel d'offres des parkings Indigo à la Défense en fait moi j'avais ma société de location de scoot elle avait un petit comptoir à la Défense on s'était mis à la Défense et donc Indigo me dit ah, il y a le renouvellement des 14 parkings de la Défense il y a le renouvellement de l'appel d'offres des 14 parkings de la Défense est-ce que vous pouvez nous aider on aimerait bien offrir un petit service de location de scooters électriques histoire d'avoir un petit avantage sur notre concurrent.
Ok.
Oh, je connaissais rien, tu vois. Donc je me dis ouais, pas mal, c'est intéressant et tout. Puis je commence à creuser le sujet et là l'idée de City Scoot me vient. Je me dis je vais le faire, d'accord. Il se trouve que bon, pour la petite histoire, Vinci Park gagne l'appel d'offres, mais me dit ensuite non mais merci, c'est gentil de nous avoir aidés, on n'a pas besoin de vous. D'accord. J'ai perdu 6 mois à bosser pour eux pour rien. Et puis l'idée de faire le truc, alors bon, quand même, je refrappe à la porte, je leur dis, bon, on a fait un appel d'offres ensemble, est-ce que je peux mettre des scouts dans vos stations? Ils me disent, ouais, bon, on peut regarder ça, on fait un contrat. Et puis finalement, il y a quelqu'un de l'équipe qui dit, non, mais ce serait bien quand même qu'on fasse 100 stations, d'accord? Donc là, je mûris l'idée, et effectivement, on crée tout.
C'est-à-dire... C'était la même team que tu avais entre la boîte de location de scouts et... Non, t'as acté
je dis ok ben bon alors on achète un scoot dans le commerce on achète le plus cher un scoot allemand évidemment et on dit mais il y a aucune connexion là-dedans faut créer toute la connectivité donc j'embauche des ingés et tout et puis on crée l'objet on crée l'IoT on crée la connectivité on crée le clavier on crée tout d'accord
attends pause on va reprendre calmement parce que du coup, tu avais des fonds qui te venaient de un peu ta boîte de location.
Non.
Enfin, comment
non,
tu...
Non, rien du tout. J'ai rien du tout. Je demande juste à la BP. Il y a un programme, je ne me souviens plus comment il s'appelait, mais qui m'a financé 30 000 euros pour le prototype d'un scooter électrique. D'accord ?
Ok, d'accord.
C'est la seule subvention. C'est un truc de la région. C'est la seule subvention que City Scoot n'a jamais eue. D'accord ? 30 000 euros au début. Avec ces 30 000 euros et les trois ingés, on crée un proto.
Qui étaient tes associés, les ingés que t'avais trouvé.
Pas du tout, c'était un bureau d'études en fait. Okay. Ouais. Et c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'était des ingés d'un bureau d'études le bureau d'études a déposé le bilan et j'ai récupéré les trois ingés ensuite qui ont bossé. C'était mes trois premiers salariés de City Scoot.
D'accord, ouais. Ok.
Donc on crée ça et avec le contrat Vinci Park, donc Indigo dans une main et le prototype dans l'autre, je lève mes 400 000 premiers euros. D'accord.
Donc là, tu avais ton bureau d'études qui t'a dit, bah, tiens, prends ce scoot-là et maintenant, il faut qu'on le fonctionnalise.
Ah, ils l'ont fait. Ils ont fait un proto qui marche. Donc, une nappe un peu pourrie. Enfin, tout ça, c'était sur le... Tout ça, c'était...
Mais avec un scoot, du coup.
Un scoot. Ouais, enfin, on en avait deux. Il y en a un qui servait vraiment... Ouais, il y en avait deux. D'ailleurs, le scoot numéro 2 a ensuite été exploité et il a roulé encore 10 ans après. Enfin,
c'est vrai ?
C'est incroyable.
C'est beau. Numéro 1
Non, le 1, c'est celui qui servait de cobaye, en fait.
Ah oui, d'accord.
On prend des pièces dessus et tout. Bon. Voilà. Et là, je lève Friends and Family les 400 000 premiers euros. Et ça m'aide à acheter les 50 premiers scouts et de faire un bêta-test, en fait. Bon, c'est un peu plus long que ça, l'histoire. Je ne vais pas te détailler toutes les étapes de l'histoire. Mais je lève autour de moi 400 000 euros avec un mail. Un 14 juillet, j'envoie un mail en disant « Je cherche un contrat à Vinci Park, les gars. J'ai un proto. C'est formidable. » À l'époque, on était encore dans le schéma station, en fait. Tu vois.
Oui, parce que ce que je voulais dire, ouais. Parce que le truc Vinci Park, du coup, c'était
On était dans le schéma station et je sais pas, bon, ils mettent de l'argent. J'ai des copains qui mettent de l'argent là-dedans.
Mais du coup, t'as quand même besoin de l'app avec le schéma station.
Oui, bien sûr. Parce qu'il fallait
qu'on il fallait le réserver, je suis bête.
Ouais, il fallait le réserver. Voilà. Donc voilà, ben, on démarre comme ça. Et puis ensuite, les choses sont arrivées. J'arrive même plus à me souvenir si j'ai eu des galères pour avoir... En fait, j'ai pris les gens qui gravitaient autour de moi pour faire le marketing, pour faire des choses comme ça, mais les équipes se sont constituées naturellement.
Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, enfin, typiquement, c'est quand même le genre de sujet où, enfin, tu vois, tu te dis, bon, c'est parce que tu réfléchis tout de suite longtemps, gros de vision, mais un truc comme City Scoot, t'as l'impression qu'il te faut une masse critique à la fois de scooter et d'utilisateur pour que tu aies un usage. Tu vois, si tu as juste... Tu étais dans combien de... Enfin, tu vois, si tu n'as pas beaucoup de prototypes, si tu as une cinquantaine de scouts, tu les mets où, utilisés par qui? Enfin, c'était quoi les premiers cas d'usage?
Dans les premiers cas d'usage, écoute, je vais te dire, nous, ce qu'on voulait, c'était prouver que ça fonctionne, d'accord? Donc, tu fais une sorte de, je sais pas, un POC, ou, enfin, tu l'appelles comme tu veux. On voulait prouver que ça fonctionne pour ensuite faire un gros tour, tu vois?
Ouais. Ça fonctionnait techniquement.
Ouais, il fallait que ça fonctionne techniquement. Avec quand même des vrais gens, tu vois, des vrais utilisateurs. Donc, des bêta-testeurs qui payaient pas. Tu vois.
D'accord.
Donc on a recruté des gens comme ça qui ont utilisé le service pendant des mois. On gagnait pas d'argent forcément, ils payaient pas. Et là on a commencé à faire rapidement avec nos 50 pauvres scouts des milliers de trajets. Bon, alors ouais, c'est comme tous les... Tu sais, moi, à l'époque, j'avais déjà 47 ou 48 ans, mais c'est moi qui répondais au téléphone la nuit. C'est moi qui allais dépanner les gens qui n'arrivaient pas à appuyer sur le bon bouton du scoot. Je me souviens, je prenais mon scoot et j'allais dépanner les gens. Enfin, c'était vraiment à l'arrache, quoi, tu vois,
ouais, ouais.
Start-up. Mais je savais déjà à l'avance que si ce projet devait fonctionner, il fonctionnerait avec des milliers de scooters. Et d'ailleurs, j'ai fait un gros coup de bluff dans la presse. Où en mai 2015, je dis aux journalistes du Journal du Dimanche, je vais mettre 1000 scooters dans Paris avant fin 2016. D'accord ? Et à ce moment-là, on a 30 000 euros sur le compte.
Attends, il y a un journaliste qui est venu te voir en mode « Ah, je vais faire le petit reportage sur la petite startup qui se lance. »
Ouais, il nous fait une demi-page, tu vois, dans le Journal du Dimanche. Et la mairie de Paris m'appelle le lundi. Tu vois, en me disant, oh, mais ce projet nous intéresse beaucoup, on va vous aider, on va l'inaugurer devant la mairie de Paris, le bêta test, tout ça, etc. Et là, je me dis, ça y est, on va avoir de la presse, on va avoir de la com, on va se faire connaître, et peut-être que c'est le démarrage.
Peut-être que c'est le démarrage, ouais.
Et moi, j'avais pas la moindre idée de savoir comment j'allais déployer même 5 scouts de plus, tu vois, en disant que j'allais en mettre 1000. Mais grâce à ça, ça l'a fait parce que ça a intéressé pas mal d'acteurs, tu vois. Enfin, ça nous a fait vraiment un gros buzz, hein, tu vois.
Et du coup, là, il fallait quand même que j'attends, parce que je ne sais pas comment tu fais pour fabriquer 50 scouts un peu sur mesure. Enfin, j'imagine que c'était... du coup, il y a les plans de tes ingénieurs.
Hein.
Ouais. L'assemblage, il se faisait par vos fournisseurs.
Non, c'est vous qui faisiez
les assemblages.
Je crois que jusqu'au 500e, je crois que c'est nous qui faisions... Alors, les scouts, ils arrivent comme tu les achètes dans la boutique, mais nous, on les dépouillait, on changeait les faisceaux électriques, on mettait tous les connecteurs, tous les boutons, etc. On refaisait le scout et on le faisait, nous, à la main. City Scoot a repris l'atelier que j'avais de l'ancienne boîte, tu vois, et on faisait là-dedans.
Ah ouais, vous avez fabriqué, enfin vous avez refonctionnalisé les 500
premiers. On a même créé une nouvelle batterie, tu vois, la batterie en fait, qui n'était pas vraiment une batterie, mais la deuxième batterie qu'on appelait un étendeur de... Un, un, un charge extender, tu vois, un extender pack, en fait, on appelait ça un EP. C'est nous qui l'avons créé avec une petite boîte de Châtellerault qui fabrique des petites batteries, tu vois, pour les vélos. Enfin, et personne n'avait fait de la décharge en série avant nous. Nous, on trouvait que c'était vachement plus intelligent pour... Donc, on a inventé la batterie, on a inventé ce truc-là. Et on assemblait tout. Non, mais c'était génial. Non, mais tu sais, City Scoot, c'était beaucoup plus... En fait, c'était une boîte tech avant... Enfin, faut pas que je dise ça parce que c'est réellement une boîte de service. Mais sa deuxième raison d'être, c'était la tech, tu vois. Enfin, raison d'être... Tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Donc, c'était vraiment une boîte tech.
C'est qu'il y avait quand même beaucoup de technologies, que ce soit sur le la fonctionnalisation.
Beaucoup d'hommes, il y avait beaucoup d'assets, mais on a tout fait nous-mêmes, même les logiciels des softwares de gestion de flotte, etc. Tout a été fait en interne. J'ai une équipe formidable. À un moment, on avait 40 tech, tu vois. Donc c'était vraiment une boîte tech. C'était génial.
Donc, tu es avec tes 50 scouts fabriqués à la main dans ton garage. Il y a la mairie de Paris qui t'appelle, qui te dit c'est génial, t'as 30 000 euros en banque et même quasiment.
Ouais.
Pas beaucoup.
Ouais, personne n'est payé à ce moment-là.
Personne n'est payé, ouais. Non. Ok.
Personne n'est payé, donc.
Donc, tu arrives à rassembler tous ces gens-là, les ingés, les gens qui te font un peu de marketing, tous ces gens-là.
Bah, les 400 000 euros sont cramés. On a toute une équipe de tech qui nous développe tout, qui nous montre une très grosse facture et à qui on dit bah, est-ce qu'en échange de la facture, on peut faire un apport en industrie, tu vois, vous voulez bien, on vous donne des obligations convertibles sur la prochaine levée, parce qu'on prépare une levée déjà, tu vois. Et en fait, on émet pour 3 millions d'euros. Alors encore pareil, hein, ça c'est du pré-seed, c'est du seed en fait. Hein, auprès que des gens que je connais, on fait pas de levée pour ça. Mais j'arrive à trouver 3 millions d'euros à peu près en obligations convertibles. Ouais.
Ah oui.
Ouais, j'avais des. Ouais. et donc on émet.
Comment ça se trouve ça?
Écoute, ça se trouve j'ai quand même autour de moi, tu sais, j'ai navigué dans les marchés financiers pendant très très longtemps, donc même en étant garagiste pendant longtemps, j'avais comme client des gens qui étaient plutôt des entrepreneurs, des patrons de leur boîte, etc., donc qui avaient un petit peu d'argent et puis qui connaissent d'autres, hein, qui connaissent des family office, des choses comme ça, et donc ça se trouve je sais pas, je me rends compte aujourd'hui à quel point c'était la chance que j'ai eue à l'époque de trouver cet argent aussi vite. C'est incroyable.
Oui, parce que certes, tu avais quand même un peu de preuves. Enfin, tu avais prouvé, disons, la faisabilité technique, technologique.
Mais c'était tout nouveau, le truc. Hein.
Tu avais commencé à prouver l'usage si tu avais eu un peu
course.
Tu n'avais pas encore testé le pricing, en revanche.
Non. Non, mais on sentait qu'il y avait de l'attraction et que c'était pas une question de pricing.
Oui, parce que.
Et d'ailleurs, c'est une des erreurs que j'ai faites. Hein. C'est au début, et d'ailleurs, après, on s'en est aperçu en interrogeant nos clients, c'est que le tarif qui est payé pour chaque course intervient très bas dans le choix d'utiliser CityScoot ou pas. Le critère numéro un, c'est la disponibilité, tu vois. Donc,
oui, et puis parce que ensuite, CityScoot faisait vraiment partie de ces expériences où c'est une disparition de l'acte d'achat. Tu ne vois pas le prix.
Ouais.
Tu vois pas que t'es en train d'acheter. À la limite, vous envoyez à la fin un petit texto.
Surtout pour ceux qui achètent des packs, tu vois.
Ouais.
Ceux qui achètent des packs, il y a une loi en marketing, c'est quand t'as du crédit.
Tu dépenses
beaucoup plus que quand tu n'as pas de crédit. Tu dépenses beaucoup plus d'argent que quand tu n'as pas de crédit. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé les packs. Donc, mais c'était pas cher, CityScoot, à l'époque. Hein. Ça valait 20-25 centimes.
Ouais.
Et là, on s'est aperçu que ça allait être compliqué quand même de gagner de l'argent. Mais bon, il fallait bien qu'on trouve nos premiers clients. Donc ça faisait partie de...
Ok, attends, si je reprends l'histoire, t'as la mairie de Paris qui te contacte, ok, go, et donc là, tu cherches, là, tu trouves tes 3 millions de démarrage par réseau étendu, plus bouche à oreille, etc. Qui,
ouais.
Et ça, t'avais prévu de les utiliser, du coup, pour...
Pour acheter au moins acheter 150 scouts de plus, déjà, au minimum, ouais. Tu vois. Recruter un peu.
Ouais.
Parce que là, il fallait, on pouvait plus être 3 ou 4 hein, sur le projet, et puis à pas se payer. Donc, il fallait que je fasse du marketing. Et puis, il fallait prévoir un budget marketing, tu vois. Donc, non, il me fallait l'argent. Et puis, comme l'objectif, c'était pas de faire 150 ou 200 scooters, mais d'en faire plutôt des milliers, il fallait que je prépare à une levée. Rapidement. Donc on a ouvert le service avec 150 scooters en juin 2016, donc 3 mois après avoir fermé le bêta-test. Mmh. Et là, je lève des fonds. Je prépare ma levée à partir du, je me souviens plus, février-mars, pour une levée qui a été faite en 2 étapes. On a levé un peu en juillet et un peu en septembre-octobre 2016. Pour pouvoir acheter des milliers de scooters en plus. Voilà.
Et sur les 250, là, du coup, tu avais commencé à essayer de monétiser pour le coup.
Ah oui, à partir du 21 juin 2016, c'est la date d'ouverture, là, on monétise.
Et comment tu fais ton... Alors, est-ce que ça fait partie de ces produits, un peu comme les premiers vélos en libre-service, puis les trottinettes, qui se marketent tout seuls? C'est-à-dire, ils sont dans la rue, les gens les voient, les prennent. Ah non, parce que tu as quand même l'acte de créer ton compte avec le permis.
Non, alors, je pense que la plus grosse source d'acquisition client, c'est les scooters dans la rue.
Ouais.
Mais 250 scooters dans la rue, franchement, tu peux très bien marcher pendant une semaine dans la rue sans en avoir un seul. D'accord ? C'est à partir du moment où tu en as 1000 ou 1500 qu'ils te font l'acquisition tout seul.
Ok.
Voilà. Donc, il faut d'abord acheter les scooters. Ensuite, c'est vrai, on n'a pas beaucoup dépensé. D'ailleurs, je crois que nos 100 000 premiers clients nous ont coûté 10 ou 15 euros, tu vois. Donc, c'est vraiment pas beaucoup.
Mmh.
On avait un LTV sur CAC qui était beaucoup trop haut, tu vois. qui était même pas bon tellement il était trop haut. Donc, les scouts font la pub dans la rue. Je sais qu'il y a plein de trottinettistes qui n'ont jamais dépensé un euro en marketing, tu vois.
Ouais.
Et c'était un peu vrai pour nous. Mais bon, quand même, il fallait se faire connaître au début.
Et donc, quoi vos canaux? Enfin, comment c'était de l'ads réseaux sociaux, Facebook, Insta.
Exactement, c'était que ça. Je crois qu'on n'a jamais... Si, on a peut-être distribué quelques flyers, mais je ne suis même pas sûr qu'on les fait. Donc, il y avait très peu de street marketing. C'était que du Google, du AdWords, du AdWords, du Facebook et tout ça. Ouais, ouais, essentiellement.
Ok.
Et donc, on lève les fonds. Et puis ensuite, voilà, l'histoire City Scoot, ça monte comme ça.
Et pareil, avec 200 utilisateurs, avec 200 scouts, et du coup, je ne sais pas combien d'utilisateurs tu as réussi à avoir à cette période-là.
Et plus qu'on en a à ce moment-là, on doit en avoir 20-25 000, tu vois.
Ok. Et comme tu le disais, l'enjeu, ça reste la disponibilité. Enfin, le truc que qui fait que tu l'utilises, c'est que quand tu ouvres l'app, tu commences à savoir qu'il y en a... un peu autour de toi ou...
Ouais, tout est fait un peu au doigt mouillé, tu vois. Tu peux pas savoir, c'est un marché, on l'invente, tu vois. En plus, moi, ce que je savais, c'est que ce serait un marché qui serait drivé par l'offre et pas par la demande, tu vois. C'est en proposant le produit, finalement, que t'attires... C'est en ayant de plus en plus de scouts.
Mmh.
Et je suis toujours convaincu qu'il valait mieux toujours avoir trop de scouts que trop de clients. C'est une des erreurs qu'Autolib a faite, je pense, à un moment. Enfin, c'est pas la seule, mais je pense que c'est une des erreurs qu'Autolib a faite. C'est à un moment, c'est qu'ils ont attrapé énormément de clients alors qu'ils n'ont pas augmenté la flotte de voitures. Et il s'est trouvé que quand ils sont passés de 90 000 à 140 000 clients avec juste 500 voitures en plus, il y a eu beaucoup de frustration. Tu vois, au moment de la réservation de la voiture, il n'y a plus de voitures, les stations étaient vides et tout. Et les clients, ils excusent ça une fois ou deux, mais pas trois. Après, ils changent d'habitude, tu vois. Ou ils changent de fournisseur. Enfin, ils font autre chose. Moi, j'ai dit, je ne veux pas faire ça. Je préfère avoir quelques scouts en trop, mais qu'au moins les clients... Moi, ce que je voulais vraiment, c'est que ce soit un service de confiance. C'est-à-dire que toi, tu vois, tu te lèves le matin, tu ne te poses même pas la question. Tu sais qu'à moins d'une minute, et ça, c'était la promesse qu'on voulait faire, c'était qu'il y ait un scooter tous les 100 mètres à Paris de dispo à n'importe quel moment. Bon, aux heures de pointe, c'était une promesse impossible à tenir, mais à n'importe quel moment, je voulais un scooter tous les 100 mètres. Et je voulais que le prix soit plus cher que le métro, mais 4 fois moins cher qu'un Uber. tu vois. Donc c'est un peu comme ça qu'on a calibré le prix au début, sachant que le prix, le rapport prix rapidité de course, c'était un facteur important, tu vois, aussi, parce que moi je peux te dire que je vais plus vite en scooter dans Paris qu'en métro. Tu vois, donc même si le métro est moins cher, le métro a ses désavantages. On se passera jamais des services publics ni du métro. Enfin, en tout cas, voilà. Mais on pourrait très bien se passer de City Scoot. Donc, il fallait qu'on fasse très attention à notre pricing, tu vois, surtout pour l'attraction.
Et c'est vrai que le critère, par exemple, c'était clairement genre s'il y a un changement sur le métro. Enfin, ouais. Avec City Scoot, c'était devenu mort, quoi. Genre, changement de métro. Genre, je vais pas faire un changement.
Tous les trajets avec un changement sont tués par
City Scoot. Par City Scoot, ouais. Clairement.
Mais après, c'est une question de budget. Hein.
Et non, mais c'était aussi un biais mental, tu vois. Mais le côté rapidité, confort, fluidité, évidemment, c'est une question de budget aussi. Mais...
Bah, t'avais peut-être le budget, tu vois. Tout le monde n'a pas le budget. Si tu utilisais City Scoot le matin et le soir.
C'était pas pour aller au taf. Pas pour aller au taf.
À la fin du mois, ça coûte un peu.
À la fin du mois, ça coûte un peu si tu fais tous tes trajets pendulaires.
Donc, mais c'est toute la différence entre la notion de service. Moi, je suis un utilisateur de service autant que je peux et je comprends bien maintenant. Enfin, je maîtrise un peu ce que un client qui cherche du service ou qui est attiré par le service. Je sais comment son cerveau fonctionne. Donc, la différence entre le service et entre City Scoot et le métro, c'est que City Scoot, c'est un service. Demain, si City Scoot n'existe plus, d'ailleurs, ce qui est le cas, mais disons que si le free floating s'arrête, bon, ok, pendant 6 mois, les gens vont avoir un peu d'amertume, mais on s'en passe. Tandis que si le métro n'existe plus demain, c'est la fin du monde. Ouais. Tu vois, bon. Et c'est pour ça que les gens qui aiment le service, ils sont prêts à dépenser un peu plus pour ne pas être collé dans les gens dans le métro, pour ne pas mettre 3 quarts d'heure pour aller d'un point A à un point B. Ils sont prêts à dépenser un peu d'argent. Donc, je ne m'adresse pas tellement. Jamais City Scoot ne s'est réellement adressé à ceux qui utilisent le métro, tu vois, le transport public. Jamais. On a pris beaucoup de gens à la voiture, au Uber, aux ex-Autolib, qui venaient, parce qu'on est arrivé au moment où Autolib, s'est overlappé 6 mois, je crois, ouais. Et à ceux aussi qui avaient leur propre scoot qu'on switchait. Voilà.
Et donc ouais, la vision c'était la disponibilité à une minute avec un pricing, donc tu nous l'as dit, en théorie visé 4 fois moins cher qu'un Uber, dispo à une minute de chez toi, et surtout en effet la confiance, parce que enfin la confiance que tu vas en trouver un, parce que sinon il n'y a rien de pire que
Mais non, mais c'est toute la base. D'ailleurs, ouais. C'est ce que je dis, la raison, une des raisons d'être de ce service, c'est que nos clients nous font confiance dans le service. D'ailleurs, quand tu t'adresses à des gens qui cherchent du service, s'ils peuvent pas compter sur le service, tu les perds à tout jamais. Tu vois. Donc il fallait qu'on fasse réellement attention à ça.
Ok, et donc là, vous avez vos... en plus, du coup, j'imagine qu'une fois que tu as 200 scouts, là, tu commences à avoir les trajets... Enfin, vous n'avez pas pris des zones plus petites au début
Au début, on n'avait que le centre de Paris. Plus, ça allait des Ternes, à peu près, jusqu'à Bastille. Mais ça longeait vraiment... C'était la ligne 1, en fait, on avait.
Ah oui, d'accord.
Voilà, okay. On avait la ligne 1 un peu écartée, voilà, un peu plus large. Parce que 200 scouts éparpillés dans Paris, tu rends service à personne.
Ouais, c'est ça.
Le problème, c'est que quand tu mets aussi dans cette zone, il fallait forcément avoir des gens qui partaient de cette zone et qui re-rentraient dans cette zone, d'accord ?
Ouais.
Mais nous, ce qu'on voulait pas, le but, c'était pas gagner de l'argent là. Hein. Le but, c'était de montrer que techniquement, ça fonctionne, qu'il y a de l'attraction, etc., et que c'est escalable dans toute la ville. C'était ça qui était important.
Vous deviez les replacer le soir pour les homogénéiser un peu.
Non, on n'a jamais. On n'a jamais, enfin en tout cas de mon époque, on n'a jamais fait ça parce qu'il se trouve que la nature, moi je pense qu'on ne peut pas faire mieux que la nature et la nature faisait déjà ça très bien. Le taux d'immobilisation des scouts, je ne me souviens plus, mais je crois que chaque jour, 85 ou 90% des scouts de la flotte étaient utilisés, tu vois, donc où qu'ils soient. Donc, aller chercher un scoot, le déplacer pour le mettre dans une autre zone pour qu'il soit pris et qu'on gagne 4 euros, non, on ne va pas dépenser 40 euros pour gagner 4 euros.
Okay. Ouais. Okay. Donc là, tu fais Donc là, tu te dis, ok, j'ai mes 200 et en parallèle, faut que je fasse ma grosse levée, quoi.
Ouais, enfin, je fais ma levée et la levée, elle est finalement assez dure, tu vois. Comparé à la facilité que j'avais eue à trouver des gens pour pour mon site, je trouve que la levée, elle est dure. Et c'est là que je fais ma première erreur, en fait. Ma première grosse erreur, c'est sur le choix des investisseurs. Et d'ailleurs, j'ai pas eu le choix. Donc, c'est pas vraiment une erreur, mais j'ai pas vraiment eu le choix. Mais à un moment, j'avais un aiguillage à prendre entre les frères ennemis BPI et CDC. Et il se trouve que la personne qui s'occupait de l'investissement dans Cityscoot à la BPI ne me donnait pas extrêmement confiance. Bon, si jamais elle écoute ce podcast, elle s'en souviendra peut-être. Et en revanche, la personne qui a mené l'investissement pour la Caisse des dépôts était absolument formidable. Elle s'appelle Marie-Laure Mazot, je peux la citer. C'est une femme extraordinaire et qui m'a donné énormément confiance. J'aurais préféré que Marie-Laure Mazot travaille pour la BPI à ce moment-là, que la CDC, ça aurait été mieux. Mais ouais, et donc je suis allé avec la CDC, avec Marie-Laure et puis avec un investisseur privé. Et ça s'est très très bien passé. Ça s'est bien passé. J'étais content de mon tour. On a levé 7-8 millions en cash, je crois, et plus un gros contrat. On peut assimiler ça un peu à de la dette, mais à peu près 8 millions de leasing avec LeasePlan pour acheter les 1000 premiers scooters.
D'accord. Ah oui. Ouais. Pour aller... Donc là, c'était ça la target. Là, c'était les 1000 scooters. Quoi.
Ah, le tour, il était fait pour prendre.
Pour prendre 1000.
Pour acheter 1000. Ouais.
C'était quand ça, du coup, là c'était...
Là, on est été 2016.
Été 2016. Donc, t'es presque dans ta promesse.
Ouais.
Que t'avais fait au journaliste.
Je la rate de peu, puisque finalement, le millième scooter, je crois qu'il a été déployé en mars 2017 ou un truc comme ça, le temps qu'ils arrivent et tout. Ouais. Voilà.
Pas mal.
Ouais.
Ok, et donc là, j'imagine que pour déployer 1000 scooters, tu les fabriques plus dans ton garage.
Non, là, c'est sur la chaîne directement du constructeur où on lui envoie nos composants électroniques et il crée une chaîne spéciale pour nous et il construit il a une chaîne Cityscoot en fait. Et quand on reçoit les Cityscoot à Paris, ils sont déjà complètement connectés et tout. Voilà.
Ok. Okay, ouais, donc
ils sont livrés de Pologne par camion. Ça aussi, ça a été un truc incroyable parce qu'on était dans une petite rue. C'était scooter à un moment, impossible de livrer les scooters dans la rue, sinon le camion embouteillait la rue pendant 3 heures. Donc on allait se mettre dans des coins vers Neuilly, vers la porte. Ouais, c'était.
Oui, c'est vrai. Où est-ce que
après,
tu
il fallait se débarrasser des cartons. Enfin, c'est des histoires du début, des trucs auxquels tu penses pas, qui finissent par coûter un peu d'argent et du
carton. Ah bah oui, ils arrivent en carton.
Les scooters, ils arrivent dans des caisses, dans des structures en métal, eux-mêmes dans des cartons. Et quand le livreur te les livre sur le trottoir et que tes portes déternent, tu vois. Et qu'il te les livre sur le trottoir et qu'il y a des dizaines de camions qui arrivent. Les mecs, ils arrivent de Pologne, tu vois, ils n'ont pas dormi pendant je ne sais pas combien de temps. Et lui, il n'a qu'un truc, il a envie que d'un truc, c'est de repartir, tu vois. Et là, on est là et nous, on n'est pas beaucoup, tu vois, encore. Enfin, on n'avait pas anticipé un truc pareil. Et t'as une montagne de cartons, donc tu dois appeler les encombrants. Le mec te dit, ça va vous coûter une tonne et tout, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Après, on s'organise, tu te structures.
Oui, t'apprends quoi.
T'apprends. Ça coûte cher un peu d'apprendre souvent, mais t'apprends. Ouais.
Et c'était quoi un peu le deal avec la mairie? Alors, certes, ils vous avaient dit, on va faire de la com sur vous, etc. Mais il y a besoin de...
Il n'y a pas de deal, en fait, à ce moment-là.
Non.
Il y a juste, on signe assez rapidement une convention de bonne conduite, ou je ne sais plus comment ils l'ont appelée, où on nous dit, ils nous disent, faites, par exemple, dites à vos clients de ne pas se garer sur les trottoirs, si les scooters sont mal garés, essayez de les déplacer, etc. Donc, il y a une sorte de... Il y a une sorte de gentleman agreement qu'on signe avec la mairie de Paris et qui nous permet de vivre comme ça sans trop de conventions, puisque finalement il n'y a pas de cadre légal pour ce genre de truc.
Oui, c'était ça ma question.
Jusqu'à finalement l'obligation de signer une convention d'autorisation d'utiliser
l'espace public.
L'espace public à des fins commerciales, etc. Donc ça nous rattrape assez vite après que Coupe soit arrivée. Et c'est surtout l'arrivée des trottinettes en 2018 qui a fait déborder le vase de la mairie de Paris et qui a obligé à créer la LOM, hein, que tu connais, la loi d'orientation des mobilités, le fait que ce soit les villes qui décident qui vient pas, l'obligation de mettre des appels d'offres, etc. Moi, je pense que la LOM, c'est une très très mauvaise loi. C'est une loi qui tue l'initiative, en fait. Donc,
voilà. Tu peux plus démarrer un truc comme ça si facilement.
Non, mais t'arrives avec tes 20 vélos, faut que tu demandes à la ville si tu peux le faire. Et elle, elle te dit, non, vous pouvez pas le faire, faut que je fasse un appel d'offres, tu vois. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait un appel d'offres quand il commence à y avoir 5 acteurs, et que ça devient le bazar. Mais sinon, ça tue complètement l'initiative. Non, ça a été fait en dépit du bon sens, cette loi.
Oui, voilà. Demain, tu veux relancer un acteur un peu dans le genre.
Dans une ville, ouais, tu peux pas.
Un overboard en free floating, tu peux pas expérimenter, quoi.
Tu peux pas.
Ouais. Donc toi, t'étais un peu dans la. T'es passé dans le Far West, quoi.
Ouais, on avait déjà lancé, mais quand même, la LOM, ça voulait dire. La LOM donnait, tu te rends compte, la bénédiction pour les villes qui. La LOM disait, vous avez le droit de prendre une redevance. Tu vois, en échange de la. De l'autorisation de la convention, vous avez le droit de prendre une redevance. Donc, c'est du pain béni, tu vois. Et moi, je trouve que la redevance. Moi, perso, quand j'ai monté CityScoot, j'étais bien naïf, mais quand j'ai monté CityScoot, mon premier BP en 2013 ou un truc, je pensais que c'était les villes qui allaient me donner de l'argent. Tu vois. Je pensais que les villes allaient être tellement contentes que j'apporte de la mobilité électrique partagée avec de l'argent privé, etc., qu'elles me donneraient de l'argent pour avoir ce service, tu vois. Surtout que ça désengorgeait les villes, ça désengorgeait le stationnement. Enfin, c'est, pour une ville, c'était tout bénef, tu vois. Puis c'était propre. Bon, non. Il faut, et elle te prend de l'argent alors que tu arrives. Moi, je pense qu'un jour le système va être. Moi, je pense que ce truc-là va être renversé.
Indirectement, tu as eu de l'argent de la Caisse des dépôts. Enfin, bon, c'est pas la même chose, mais bon, il y a quand même l'approche territoriale.
Oui, mais j'aurais pu avoir. Oui, mais oui. Le raisonnement était la même si j'avais eu de l'argent de ID Invest ou de
fonds. Oui, c'est vrai. Oui, non, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ok, donc là, tu lèves 8 millions de plus, tu installes tes 1000 scouts. Là, du coup, tu recrutes une grosse équipe pour gérer tout ça.
Ouais.
À la fois sur la partie, j'imagine, opération, tech.
Le gros, c'est opération terrain, parce qu'il faut aller changer les batteries tous les jours.
C'est ça. Ouais. Là, tu commences à les avoir.
Donc, en gros, à cette époque-là, les scooters, ils ne tournent pas beaucoup. Tu vois, ils tournent deux fois par jour. Remarque, non. Attends, je dis des bêtises. Les premières années, ils tournent jusqu'à 4 ou 5 fois par jour. Donc, on change les batteries tous les jours ou tous les jours et demi, quand même. Tous les jours et demi. Et donc, on en change pas mal. Et de toute façon, les deux tiers des effectifs chez CityScoot, ça a toujours été deux tiers terrain plus atelier. Enfin, c'est ça. Et un tiers, tout le reste. Voilà. Siège, marketing, tout ce que tu veux. Voilà. Deux tiers, un tiers. Même trois quarts, un quart, je pense. À un moment, il y avait 200 types qui travaillaient à l'opérationnel terrain plus atelier. Ouais.
Ça fait un gros gap quand même, non ? Passer de 200 à 1000. Comment tu...
Non, mais tu le sens pas parce que d'abord, les scooters, ils sont livrés au fur et à mesure.
Mais du coup, tu arrives à scaler tes opérations au fur et de la même manière ?
Quand les scooters additionnels arrivent, si tu veux, quand ta flotte augmente, l'usage augmente pas aussi vite, tu vois ? C'est pas parce que tout d'un coup, tu as... 300 scouts de plus que tu as 1000 trajets supplémentaires. D'accord ? Il faut que ce soit digéré. Donc, tu as une inertie d'environ 2 ou 3 mois qui te donne le temps de te scale, de monter en puissance et de suivre ta croissance. Voilà.
Et du coup, d'un point de vue équipe, toi, t'avais jamais monté une boîte de cette taille-là, encore moins une partie tech et une partie ops terrain. Comment tu...
Mais je sais pas, je me souviens
comment
même
tu,
pas.
Comment tu t'armes, comment tu te fais les choix sur comment tu structures la boîte et tout, enfin... Parce que j'imagine qu'il doit y avoir une bicéphalie de, gérer les investisseurs, le déploiement, etc. Et puis, gérer l'interne, comment tu...
Je demande quelques conseils à droite, à gauche, tu vois, je lis pas les bouquins, mais je vais un peu sur Internet, je regarde comment il faut faire. Je ne suis pas tous les conseils qu'il y a, mais je le fais un peu au feeling. Le recrutement, c'est pareil, je le fais un peu au feeling. Pour moi, je préfère recruter quelqu'un en qui je sens qu'il y a du potentiel et en qui je peux avoir confiance et qui aime beaucoup le projet, que quelqu'un qui a un gros CV. Voilà. Donc j'y vais un peu comme ça. Mais je sais qu'il me faut, je sais qu'à un moment il me faut un directeur financier. Je sais qu'à un moment il me faut un directeur du marketing. La tech, elle est déjà là, elle, depuis le début, de toute façon. Hein, c'est en train de se structurer toute seule. Et puis, il y a un CTO qui, lui-même, s'occupe de la tech. La RH, moi, j'ai pas de DRH en très, très longtemps. D'accord.
OK.
Ouais, assez étonnamment. Ça se gère un peu avec les moyens du bord. Donc, il y a une petite employée, j'ai dit elle est petite parce qu'elle était vraiment toute petite, qui à elle toute seule arrive à prendre la charge de tout le RH. Et je peux te dire que les gars qui changent les batteries nuit et jour sur le terrain, c'est des lascars, tu vois. Donc il faut vraiment les tenir. Voilà. Et donc non, mais bon, ça vient comme ça. Et franchement, je me souviens pas avoir galéré dans le recrutement, dans la constitution des équipes. Cette boîte, j'y ai passé entre 12 et 14 heures par jour tous les jours pendant 3 ans, hein. Donc, mais ça s'est fait tout seul, je sais pas, et puis j'étais tellement enthousiaste que j'ai pas senti, ouais.
Ok, donc
j'ai pas senti de galère, ouais, à ce niveau.
Ouais, c'est ok.
Ouais, non.
Sur l'équipe, ok, c'est beau, tant mieux, hein, mais elles sont arrivées où, les galères, alors?
Les galères, elles sont arrivées. On a eu des problèmes de connectivité. On a eu des problèmes techniques un peu. Hein. Ouais. Au bout d'un moment, les problèmes d'échelle. Tu vois, quand tu montes, quand tu commences à avoir 7500 scouts dans 3 villes, etc. Bon.
Alors, ça c'est un bon point. À quel moment tu te dis, ok, je suis en train de gérer à peu près Paris. Vas-y, go international. Le play, il est international. Et comment tu ouvres?
Je ne sais pas
si
le play est international. Donc, je commence par une ville un petit peu de test qui est Nice. Nice, on est très bien reçu par la ville. Et ça me semble être une bonne ville parce que ça a une réputation un peu de smart city, tu vois. Il fait beau. Il y a un pouvoir. Il y a un PIB par habitant qui est plutôt au-dessus de la moyenne en France, donc un bon petit pouvoir d'achat. Donc je me suis dit, Nice, on va déployer. Voilà. Donc Nice, pour nous, c'est notre laboratoire de scale.
Avec le côté il fait beau, c'est important pour le scout.
Ouais, ouais. Donc, c'est notre... Mais tu sais qu'il pleut beaucoup à Nice, il pleut plus à Nice, il pleut une fois et demie plus à Nice qu'à Paris. Mais...
T'apprends des datas super intéressantes quand tu montes.
C'est le truc essentiel, c'est le premier truc, c'est densité de population et pluviométrie. C'est les deux trucs que je regarde en premier avant de déployer dans une ville. Donc Nice, ça nous paraît favorable. Donc on déploie à Nice et là on apprend. On apprend à monter un autre atelier, gérer une autre équipe à distance, des discussions avec la ville qui sont différentes des discussions avec Paris. Tu vois, c'est pas la même chose. La façon dont les clients se comportent, c'est pas du tout la même chose non plus. C'est pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes durées de trajet, etc. Donc on apprend beaucoup. Et ensuite on se dit bon bah là on a appris, on va se lancer dans une autre ville, mais cette fois-ci une grosse ville et à l'étranger. Et donc on va à Milan. Voilà. Et en juin 2018, je recrute quelqu'un pour Milan et on ouvre 1er janvier 2019, je crois, on ouvre à Milan.
Mais du coup, chaque ville que tu ouvres, c'est re de la levée. Ou c'est...
Ouais, on fait un tourbé entre temps.
Ouais.
En janvier 2018, je crois. Après avoir ouvert à Nice. Ouais, parce qu'il faut qu'on grossisse la flotte, etc. Donc. C'est une levée qui se passe assez bien parce qu'on est en croissance de 100% par an depuis l'origine. Donc, tu vois, on passe chiffre d'affaires 2016, c'est une demi-année, 500 000 euros. Chiffre d'affaires 2017, 5 millions. Chiffre d'affaires 2018, 10 millions, etc. 2019, 20 millions, tu vois. Donc, on double chaque année à peu près. Donc on a une bonne traction, on a une bonne croissance, ça se passe assez bien.
Et la balance économique, elle commence à être prouvée un peu, pas du
non,
tout.
Non, en fait, tu sais, le business model de, oui, elle commence, mais en fait, pas réellement. Le business model de CityScoot, c'est que les scooters doivent survivre à leur durée de leasing. Donc, tu souffres pendant toutes les années où tu dois payer les loyers pour rembourser les scooters, tu vois, enfin, pour devenir propriétaire. Donc, ça, c'est 3-4 ans à peu près. Et puis au bout de 3-4 ans, les scooters t'appartiennent. Et si tu continues de les exploiter, c'est pour ça que j'avais acheté des scooters chers mais solides. Mmh. Si tu arrives à continuer à les exploiter, après, c'est tout bénef, tu vois. Et du coup, la courbe le PNL,
ouais.
il explose.
Une fois que tu as passé les premiers deals qui sont.
Ouais. Et dès la quatrième année, dès la deuxième année où les scooters t'appartiennent, t'as couvert largement tes pertes des années précédentes et t'es même bénéficiaire. Bon, un des problèmes ce qui s'est passé avec CityScoot, c'est qu'au moment où on commençait à avoir vraiment beaucoup de clients, de l'attraction, plusieurs villes, en 2019, on a fait, il y a eu 4 millions de locations sur l'année, ce qui fait 11 ou 12 000 par jour, tu vois, c'est énorme quand même, avec un bon chiffre d'affaires. Le Covid arrive.
Bam, Covid, ouais.
Voilà. Donc, tu vois la lumière au bout du tunnel, mais non, le Covid arrive. Donc, on n'a jamais réussi à avoir l'embellie promise qu'on aurait dû avoir. Les grèves RATP de fin 2019, début 2020, en plus, ont boosté complètement l'activité. Et en 2020, on s'apprêtait à avoir une année record, canon, tu vois, proche de l'EBITDA ou pas, enfin, du break-even. Mm-hmm. Et ben, on l'a pas eu. Voilà. Donc, et puis après, la catastrophe Covid, puis télétravail, 2 années larvées, totalement merdiques, tu vois, qui ont créé la situation, enfin, qui ont été le début de la fin, finalement.
Mm. Et ouais, du coup, là, c'est vrai que Covid, forcément, ça stoppe. Télétravail, oui, t'avais du coup, tu disais 70% quand même de...
Ouais, même plus, 75%
sur du pro, ouais.
Ouais, sur du pro. Donc, le Covid a fait très mal. Quand le confinement, bah, c'est 0, enfin, vous avez 5% des courses habituelles, tu vois. Donc, 95% de chute du chiffre d'affaires pendant les mois de confinement. Les couvre-feux ont fait mal aussi, tu vois. Donc, tu as une année 2020 et bizarrement, entre les périodes de confinement, on bat des records de nouveau, tu vois. Donc, l'année 2020, on sent qu'elle voulait vraiment, tu vois. Elle voulait vraiment, mais parce qu'entre juin et septembre, on bat tous les records de CityScoot, tu vois. Ce qui fait que finalement, on fait une année en chiffre d'affaires de 2020 avec des mois blancs. Quasiment, mais quand même pas trop en retrait par rapport à 2019, étonnamment. Mais par contre, avec des investissements qui coûtent cher, parce que tous les scouts qui ont été achetés en 2019 pour anticiper le déploiement dans toute l'Europe, etc., bah, eux, ils n'ont pas roulé parce qu'on n'a pas ouvert les villes.
Ouais.
Ils payent leur loyer, ils payent leur assurance et ils ne roulent pas, tu vois. Donc, tu as 2500, 3000 scooters qu'on a sur les bras, on ne sait pas où les mettre. Donc, on essaie d'ouvrir à Barcelone, ça ne se passe pas bien. On essaie d'en remettre plus à Milan, c'était trop. On essaie d'ouvrir Rome. Bon, tout ça, c'est finalement des coups d'épée dans l'eau qui coûtent très cher. Donc, un déploiement à l'international qu'on n'aurait pas dû forcer. Mais bon, les scooters, on les a. Hein, donc, il faut essayer. On voulait essayer de les exploiter. On en remet même plus à Paris. À un moment, on avait 4500 scooters à Paris. Jusqu'en octobre 2021, enfin je sais plus, je me souviens plus le calendrier finalement de des confinements et tout ça, mais le télétravail finalement a été l'effet secondaire assez désastreux pour les mobilités, pour plein de choses d'ailleurs, hein, pas que les mobilités, mais pour nous en particulier. Et tout ça, ça a amené à ce que notre situation de cash, malgré le PGE que j'ai réussi à attraper, malgré les sous qui ont été levés en fin 2019 au tour C, on arrive à une situation très dégradée de notre trésor début 2022. Voilà.
Ok. Les trottinettes, ça a un impact sur votre business ?
Non, c'est pas ça, les mêmes. Trottinettes, c'est plutôt des jeunes et c'est plutôt des piétons. Donc, c'est pas nous. Même les vélos. Ouais. Le vélo électrique un peu.
Vélo électrique un peu plus.
Le vélo mécanique, non. C'est pas les mêmes clients. Mais le vélo électrique, ouais, il y a peut-être un overlap un peu plus important qu'avec le vélo.
Vélo électrique, tu commences à pouvoir prendre les voies. Les sens interdits, ce que tu peux pas faire en scoot.
Non, le vélo électrique, c'est un bon compromis de déplacement à Paris, mais bon, tu peux pas avoir de passagers, tu peux pas transporter de sacs, de trucs comme ça. Donc, il y a quand même, les usages sont pas tout à fait les mêmes.
Ok.
Donc, mais oui, le vélo électrique est un concurrent plus sérieux que le vélo ou la trottinette, largement.
Et les différents investisseurs que tu es allé voir au fur et à mesure, du coup, des levées pour grossir la flotte, ouvrir des villes, etc., là, Tu prenais quel type d'invest? Toujours des...
Écoute, moi je passais par des levers, donc les levers ils arrosaient un peu tout le marché. Je passais par Volta Partners pendant mes trois tours. Mm-hmm. Donc là ça va dans tous les sens, mais plutôt fonds de private equity, enfin fonds VC, etc. Voilà.
La cap table, elle doit ressembler à une mosaïque à la fin.
Ouais, surtout que mes premiers investisseurs, c'est tous mes copains. Donc, j'ai 80 lignes dans ma cap table, tu vois. Donc, c'est l'horreur. Au début, on avait des décisions à prendre à l'unanimité. Puis, il y en a toujours un qui est à Tahiti, qui répond pas, qui a décidé de faire une retraite en Inde et qui répond pas à son téléphone pendant 15 jours, ou je sais pas quoi. Enfin, bon, ça a été l'enfer. Ça, c'est une leçon pour moi pour l'avenir. C'est que je regroupe tout le monde dans une holding.
SPV,
ouais, SPV, ouais. Voilà. Mais j'ai pas eu tellement de finalement fonds professionnels. J'en ai eu 7 ou 8, tu vois, en tout. Mm. Par contre, j'ai vu beaucoup, beaucoup de VC. Ouais, j'ai fait des roadshows où j'ai vu plus de 100, j'ai pitché plus de 100 ou 150 fois, quoi.
Ah ouais, ouais.
Ouais.
Et tout à l'heure en intro, tu disais. J'ai fait le premier mauvais choix, le bon choix parce que c'était le seul, mais c'était le seul embranchement. Pourquoi tu...
Ouais, non, mais bon, j'ai fait un mauvais choix parce qu'en fait, j'aurais préféré avoir BPI parce que BPI est quand même beaucoup plus intéressé par les performances des boîtes que la CDC. D'une manière générale, je pense que s'ils ont le choix, les entrepreneurs doivent faire très attention d'avoir... la gouvernance, c'est ce qu'il y a de plus important dans une entreprise. Donc, il faut qu'ils fassent très attention à avoir des investisseurs qui veulent que leur société, que leur entreprise gagne de l'argent, plutôt que des investisseurs qui viennent pour des raisons stratégiques. Voilà. Un investisseur qui vient pour des raisons stratégiques ou pour cocher une case, parce que c'est un fonds à impact, donc ils leur font un projet impact, ils leur font un projet d'économie circulaire, un projet d'économie collaborative ou n'importe quoi. Ah, ça y est, je l'ai, j'ai coché, mais donc je suis pas le chargé d'investissement, il a fait son boulot, mais en fait il comprend pas le business, ça l'intéresse pas, il a juste coché la case. Ça, pour moi, c'est le plus mauvais investisseur qui existe. C'est un investisseur qui ne va pas soutenir la société quand elle en aura besoin. C'est un investisseur qui s'intéresse pas tellement au business model ou qui le comprend pas. Et je pense que mes trois ou quatre premiers investisseurs institutionnels sont rentrés chez Cityscoot juste pour cocher la case. Voilà. Donc je pense que CDC voulait cocher la case. Je pense que RATP voulait cocher la case. Et je pense que probablement peut-être Allianz voulait aussi cocher la case. La relation était un peu différente avec Allianz. En plus, j'étais leur client depuis... les scooters sont assurés par Allianz depuis le début. Donc il y a eu une bonne relation de confiance et y avait déjà du business entre nous. Donc c'était un peu différent. Mais en tout cas, les deux acteurs publics, je pense qu'ils n'ont rien à faire dans les startups. Je pense qu'aucun acteur public n'a rien à faire dans les startups. Je pense que leur mentalité est de nature à tirer les startups vers le bas. Et je conseille, si jamais ils ont le choix, s'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix. Hein, mais de temps en temps, peut-être qu'il vaut mieux pas signer que de signer... que de mal signer. Mais je pense que les entreprises publiques, sauf BPI, dont c'est le métier, le vrai métier, n'ont rien à faire dans les startups. Voilà. Mais je ne dis pas qu'elles n'ont rien à faire dans les entreprises, notamment dans le private, dans le growth, etc.
Ouais.
Je dis dans les startups. Les startups, c'est de l'ultra-croissance, c'est des visions, c'est du risque, c'est énormément de risques. Or, ces gens-là ne détestent tout ça. D'accord. Moi, ma grosse erreur avec la RATP, c'est qu'en fait, la RATP, elle a une vision de la mobilité qui est totalement opposée à celle de Cityscoot. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est la RATP, c'est une voie d'utilité publique.
Oui, c'est essentiel, c'est un service essentiel.
Alors que Cityscoot, c'est une société de service. Donc, on n'a pas du tout la même mentalité. Nous, on veut faire monter des gens, les en payer plus cher que le métro, sur un mode de transport individuel. C'est complètement le contraire. Donc, ce qui fonctionne, voilà. Donc, faire rentrer la RTP dont le raisonnement est totalement différent.
C'est fondamentalement idéologique. Là,
c'est idéologique. Ils ont un logiciel complètement différent. Donc, en fait, quand on est dans les boards et qu'on discute de vision, de stratégie, etc., il peut pas y avoir une symbiose parfaite, c'est pas possible. Et à partir du moment où entre l'entrepreneur et son board, il y a pas une volonté d'aller tous dans la même direction et surtout d'accepter le risque. Tu sais, l'acceptation du risque, c'est un truc qui est très très difficile. Les VC, il y a des VC qui l'acceptent parfaitement, qui sont autour de la table, qui ont déjà monté des boîtes, qui savent ce que c'est. La plupart non. D'accord. Moi, aujourd'hui, je suis très très peu tendre avec les VC, mais c'est clair que dans les entreprises publiques qui investissent dans les startups, il n'y a pas ça. Jamais autour de la table, il y aura quelqu'un qui aura monté une boîte. En revanche, par contre, ils ont des comptes à rendre. Tu vois, ils ont des comptes à rendre parce qu'ils ont des comités au-dessus. Au-dessus, il y a au moins 3 couches. Tu vois. Et les gens qui ont des comptes à rendre, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux essayer d'avoir des gens autour de la table qui investissent leur propre argent ou en tout cas qui sont très proches des gens pour lesquels ils investissent, d'accord ? Ce qui est rarement le cas, en fait, parce qu'il y a toujours des LP derrière le private equity. Mais c'est pour ça que moi je trouve que le VC a énormément changé. Enfin, le monde du VC a énormément changé parce que aujourd'hui, on ne sait même pas si on a affaire à des gens qu'on a au téléphone qui ont peu d'intérêt en fait dans la boîte, qui se protègent.
C'est-à-dire peu d'intérêt dans la boîte.
Bah en fait, ils reçoivent des dossiers. Moi, je pense que d'ailleurs, moi, je pense qu'ils refusent des dossiers sans les lire. Voilà. Je pense que 90% des VC refusent des dossiers sans même les avoir lus. Même sans avoir lu les premières pages ou le teaser, etc. Quand tu discutes avec eux, alors il y a des j'observe aujourd'hui par exemple que la moitié des VC sont à Impact, c'est incroyable, d'accord. Tous les VC que je connaissais avant, il y en a la moitié qui sont devenus à Impact, enfin qui ont une forte composante Impact et qui en fait moi, ça me fait peur, ça, parce que justement, tu vois, c'est ce que je te disais, ils vont aller cocher une case Impact. Donc, ils vont aller te prendre une boîte, d'accord, qui finalement a un truc qui est assez différent. Ils ne comprennent pas trop le business model, mais ce n'est pas grave, ça coche la case Impact, tu vois. Et
tu penses que ça versus leur côté très, je ne vais pas dire Sharky, mais très orienté ROI, enfin TRI. Ils ont quand même cette mentalité de cocher une case. Des acteurs publics, à la limite, je comprends plus, mais des gens qui sont vraiment incentivés.
Moi, j'ai parlé à plein de fonds. Tu vois, j'ai un petit projet là, de mobilité. Alors, j'ai changé le business model parce que j'ai trouvé un business model qui était vachement mieux, mais j'ai parlé à plein de fonds récemment, des fonds à impact, tu vois. Et en fait, il y en a plein qui m'ont dit « Ah ouais, mais moi, il faut absolument que j'investisse dans un projet à impact avant telle date. Mais plutôt, il faut que j'investisse dans un projet qui fait plutôt ça. » D'accord ? Il fallait qu'il coche cette case-là.
Ah ouais, okay.
Voilà. Donc moi, je fais plutôt, par exemple, le mec qui va te dire « Moi, il faut absolument que j'investisse dans un projet qui fait de l'économie collaborative. » D'accord. Il fallait absolument qu'il coche ça parce qu'il n'avait pas ça dans son portefeuille, tu vois. Donc plutôt que d'aller prendre un bon projet qui fait la même chose que peut-être ou qui est proche d'un autre projet qui fait ou qu'un truc qui pourrait l'intéresser, il ne le prendra pas parce qu'il faut qu'il coche sa case. Moi j'aime pas ça et ce que j'ai aussi remarqué et pour moi le pire c'est peut-être même pas ça, c'est qu'une fois qu'il rentre dans le projet, donc là, c'est la fête. L'entrepreneur, il est hyper content. Il a de l'argent. Il a des nouveaux. Il a des nouvelles personnes à son board. Enfin, je sais pas si moi, ça. Je sais que je serais plus très content maintenant. Et là, il y a toute la suite que j'appelle un peu la route de l'enfer, qui est le pacte. La façon dont est rédigé le pacte. Moi, il y a un truc qui me surprend énormément, mais je pense que c'est insolvable, c'est que dès la première levée, tu as l'avocat des investisseurs, et puis tu as l'avocat, soit l'avocat de l'entrepreneur qui a pris son propre avocat parce qu'il n'a pas envie de se faire avoir, et ça, c'est très très mal vu. Tu vois, l'investisseur, il ne supporte pas ça. Soit tu as un avocat qui est là, puis qui est plutôt l'avocat de la boîte, tu vois, mais qui lui peut pas prendre la défense de l'entrepreneur parce que ça se fait pas, tu vois, il est pas payé par l'entrepreneur, il est payé par la boîte, tu vois.
Ouais.
Et donc il y a tout de suite un conflit qui se crée dans la discussion de la gouvernance des prefs, de la modalité des prefs, des droits de sortie, etc. Et là, il y a déjà, maintenant, en tout cas, j'ai remarqué, une espèce de construction dès le départ de savoir comment le VC va réussir à diminuer son risque énormément plutôt qu'à motiver l'entrepreneur. Je trouve que moi, je te jure, dans ce pays...
Diminuer le risque, c'est-à-dire mettre des clauses qui vont à l'encontre de l'entrepreneur, quoi.
Forcément, si le nouvel investisseur diminue son risque, ça veut dire que c'est l'entrepreneur c'est celui qui avait qui avait les actions avant, qui paye l'addition. Hein. Forcément, ça vient au détriment de quelqu'un et c'est forcément voilà. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, entre le fait qu'un mandataire social, donc un fondateur qui est CEO de sa boîte, touche pas le chômage, la façon dont les VC traitent les entrepreneurs, les fondateurs au moment des tours A, B, C, etc. Moi, je trouve que ça donne plus envie d'entreprendre. Je te jure, c'est entreprendre maintenant. Combien là sont sortis depuis des années avec zéro? J'ai lu encore un truc hier où une boîte est vendue 465 millions d'euros, enfin, ou avant-hier. Les fondateurs, ils ont 300 000 euros chacun, je crois. Parce qu'ils se sont fait avoir avec les prefs au fur et à mesure. Ouais. Avec les liquides prefs et tout, ils se sont fait tout savoir. Et les prefs qui se servent deux fois, trois fois, etc. Et l'entrepreneur, soit il est conseillé, et dans ces cas-là, ça crée tout de suite, soit il est conseillé perso, hein. Et ça crée tout de suite un combat, mais qui est malsain, tu vois, qui devrait même pas exister depuis le départ. Parce qu'en fait, le but, c'est que tout le monde soit content. Et un entrepreneur qui a peur, qui comprend que sa cascade, là, son waterfall, ouais, lui est hyper défavorable. Et que quoi qu'il arrive, même si la boîte, elle fait x2, bah lui, il fait x1,1. Le mec, il est démotivé. Il a plus envie de... Tu vois, s'il sait qu'il bosse pour faire gagner de l'argent à tout le monde sauf à lui, il a plus envie. Et ça, les VC, à force d'essayer de diminuer leurs risques et donc de baiser l'entrepreneur, bah, en fait, tout le monde y perd.
Et surtout dans un cadre où c'est un peu plus difficile aujourd'hui, en ce moment en tout cas, de lever, bah, tu fais un peu le moins difficile sur le fait de choper de l'argent et donc tu te fais potentiellement un peu plus
avoir
sur les conditions.
Voilà. Et moi je pense qu'aujourd'hui, moi je me souviens de Fonds il y a 8 ans qui disait nous ce qui nous intéresse c'est que l'entrepreneur soit content. Moi je crois aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Alors si j'en entends quand même encore parler, et encore une fois à midi aujourd'hui, je sais qu'il y a des fonds, par exemple, je sais que Marie Eklund par exemple, elle est hyper vertueuse dans sa relation avec l'entrepreneur. Voilà. C'est-à-dire qu'elle, je pense qu'elle comprend. Moi, je ne la connais pas perso. Hein. Je ne l'ai jamais rencontrée, je ne lui ai jamais parlé. Donc, je peux m'exprimer en toute neutralité. Mais ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. On m'a dit que dans son fonds 2050, qui est un fonds très bien, qui est un fonds impact d'ailleurs.
comme quoi,
il y en a des biens. Mais je dis, il y en a des biens, c'est sûr, il y en a des biens. Mais en général, maintenant, c'est un parcours du combattant pour l'entrepreneur de lever des. La gouvernance, pour moi, c'est un truc qui est très difficile à gérer. Voilà.
Et donc, bah, justement, ça va peut-être reboucler, mais tu nous disais, on arrive fin 2022 dans une situation où la trésorerie n'est plus là. Ça n'a pas vraiment complètement repris depuis le Covid, avec le télétravail, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu fais quoi? Là, tu es un peu au pied du mur.
Oui, là, c'est compliqué. En plus, je sens qu'il y a une grosse perte de confiance de la part de mon board vis-à-vis de moi, tu vois. Donc, je sais que les prochaines étapes vont être difficiles. Il n'y a plus de cash. Faut demander de l'argent à des investisseurs qui en ont déjà mis beaucoup. Pour une boîte qui n'a pas encore gagné de l'argent, pour cause. Et dont on se demande si vraiment avec ce qui vient de se passer elle pourra en gagner un jour, tu vois. En fait, il y a aujourd'hui aucune boîte de mobilité partagée dans le monde qui a gagné un seul euro. Enfin, il y en a peut-être quelques-unes maintenant dans quelques villes qui arrivent à sortir des résultats positifs, mais je crois qu'au global, tout frais payé, parce qu'il y a des résultats qui sont un peu déguisés, tout en bas de la feuille, je crois qu'il n'y en a aucune qui gagne de l'argent. Donc la mobilité a très mauvaise presse, tu vois. C'est un peu pour ça que d'ailleurs j'ai pas réussi à trouver mon argent. Je pense que plus personne ne veut investir dans la mobilité. Je pense que c'est un peu la faute des trottinettes, ou en tout cas pas la faute des trottinettes. Je pense que c'est un peu à cause des investisseurs qui ont mis des milliards dans les trottinettes, tu vois, ouais. Qui sont pris de tels bouillons. Les Lime, Bird, etc. Enfin, moi je sais, il y a eu un SPAC sur Bird il y a pas très longtemps, tu vois, à 2 milliards et quelques. Bird, ça vaut 500 000 euros aujourd'hui, tu vois, 500 000 dollars. Enfin, ils sont chapter 11, de toute façon, c'est fini. Mais, et puis il y en a d'autres, hein, des SPAC, il y a Elbiz qui a été valorisé 404 millions de dollars au moment de son SPAC qui vaut 90 000 dollars, enfin des trucs comme ça, enfin 200 000 dollars aussi. Donc toutes elles se sont plantées.
Ouais.
Et les trottinettes et les vélos avant ça, je sais pas si tu te rappelles de l'époque Ofo Bike et tout.
Ofo Bike,
des milliards.
Gobi Bike et tout ça.
Etc. Ouais. Milliards envolés. Donc au bout d'un moment, forcément,
les vélos
l'image de l'argent investi dans la mobilité, c'est que tout le monde a perdu de l'argent.
Ouais.
Et même si toi, tu présentes un business qui, a priori, peut gagner de l'argent, tout le monde tourne la tête, tu vois, enfin, se pince le nez en te voyant arriver avec ton projet de mobilité, ce qui est un peu dommage. Et donc, en 2022, bah ouais, c'est très dur. Les investisseurs qui sont déjà là, ils savent que s'ils ne remettent pas de l'argent, ou si on ne trouve pas de l'argent, ou si on ne vend pas la boîte, elle va au tapis, d'accord ? Et donc, moi, là, je parle d'un... J'ai dit tout à l'heure sur fond de désaccord avec mes actionnaires parce que... Je préfère pas en parler de ce qui s'est passé parce que pour moi l'histoire est pas complètement terminée, donc j'ai encore des choses à voir. Donc, mais globalement je pars, je suis remplacé par le DG que j'avais nommé pendant le Covid et qui reste, qui vend aux actionnaires restants un plan de redressement, d'accord, un plan reset comme il l'appelait. Qui, pour des raisons que j'ignore, n'a pas fonctionné. Et en fait, on se retrouve un an après, c'est-à-dire en avril 2023. Moi, je ne suis plus qu'actionnaire à ce moment-là. Hein.
Un plan, excuse-moi, juste deux secondes. Un plan en le relevant ou juste un plan de sauvegarde, un plan de...
Non, un plan en relevant de l'argent.
En relevant quand même.
Voilà. Donc, c'est un plan qui a été financé par les investisseurs, qui finalement... Bon, moi, j'ai vu la présentation du plan, ça montrait sinon un EBITDA positif rapidement, sinon une route vers l'EBITDA positif. Mmh. Bon, le plan n'a pas tenu pour des raisons que j'ignore et sur lesquelles je ne peux pas m'exprimer puisque je n'étais pas là. Mais je sais qu'en tant qu'actionnaire, en avril 2023, le président, donc ex-DG, qui est devenu président à ma place, s'en va et est remplacé par un cabinet de management de transition. Voilà. Mmh. Dont je ne connais pas le mandat. Je connais pas la mission qu'il leur est confiée. Est-ce que c'est de liquider la boîte? Est-ce que c'est d'essayer de la retourner? Est-ce que c'est d'essayer de préparer un plan de cession, une cession? Je connais pas exactement. Je sais que j'aurais beaucoup aimé être à leur place. Et je sais simplement qu'ils ont eu... Bon, moi, j'ai pas été tout à fait d'accord avec la façon dont ça a été fait, mais ils ont proposé à un moment un plan aux actionnaires qui me paraissait pas mal, qui me paraissait tenir la route, d'accord ? Et c'est ce fameux plan qui a finalement été refusé, et c'est le dernier kilomètre qui n'a pas été franchi, et qui aurait pu l'être s'il avait été financé. Alors que l'appel d'offre venait d'être gagné, et que le plan présenté par le management de transition paraissait assez correct, il était perfectible, mais il était suffisant en tout cas pour relancer la boîte, je pense. Les investisseurs n'ont pas suivi, ont décidé de couper le robinet à ce moment-là, et d'où mon poste très énervé. Moi, j'étais très surpris de ça, mon poste très énervé au mois de fin octobre, début novembre, tu vois. Donc on en est là, et puis moi donc la boucle est bouclée, hein.
T'as essayé de reprendre ça.
J'essaie de reprendre, j'y arrive pas. Constitue toute une équipe de gens formidables qui travaillent au succès pour moi. Et tout ça, ça a été lancé par un mec qui est vachement bien, qui s'appelle Adrien Badelon de Scotto Partners. Qui est vraiment l'avocat des entrepreneurs, tu vois, Scotto. et qui me dit, viens Bertrand, fais ensemble, on réunit une équipe. Moi, je travaille au succès si t'arrives à reprendre.
C'était quoi le plan? les grands axes.
Il fallait changer la flotte, d'accord. Donc ça, c'était obligatoire. Donc le plan, c'était de changer la flotte. Je voulais mettre des scooters comme celui que j'utilise maintenant aujourd'hui, que j'ai acheté pour moi, qui est un scooter extraordinaire. Mais je vais pas dire ce que c'est parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub là, parce que je suis en train de négocier autre chose avec eux pour mon autre projet de mobilité que je lance là. Et c'est un scooter qui aurait plu à tout le monde. Il était beaucoup plus facile à conduire, trois fois moins cher que celui d'avant, trois fois moins cher.
Ah oui.
Tout connecté.
Par défaut, tu veux dire, par construction, pas besoin de
l'adapter.
Tout
connecté.
Ouais, ça, vous êtes arrivé juste avant la vague, en fait, des scooters électriques.
Nous, en fait, en défrichant le marché, on a payé très cher.
Ouais, bah oui.
Tu vois. Aujourd'hui, si je redémarrais un City Scoot aujourd'hui, et c'est ce que je proposais de faire d'ailleurs, projet, avec le matos qui existe maintenant, toute la techno, les softs, les trucs de gestion de flotte, les CRM qu'il y a aujourd'hui, etc., j'économise des dizaines de millions. C'est-à-dire que j'ai tout l'argent qui a été dépensé, je ne le dépense plus, tu vois. Donc, t'imagines un scoot où les loyers, enfin le leasing est trois fois moins cher et en plus qui est beaucoup plus facile à exploiter. L'autonomie, les batteries se rechargent en 2 heures au lieu de 8. Elles pèsent moins lourd, elles ont plus de capacité, donc tu les changes moins souvent, donc tu as besoin de deux fois moins de personnes sur le terrain.
C'est un time to market qui était bon d'un point de vue lancement, mais mauvais d'un point de vue maturité, en fait.
La vision était par contre, quand tu défriches, il faut payer les pots cassés, il faut tenir, tu vois. Après, tant pis. Donc le plan c'était ça, et le plan c'était en plus il y avait j'avais une autre surprise sous le chapeau, mais que j'ai pas le droit de parler parce que ça n'a pas été décidé, mais qui aurait rapporté beaucoup d'argent à City Scoot. Tout ça faisait qu'on était EBITDA positif dès l'année prochaine, quoi.
Ouais, c'est vraiment la ligne.
Mais en plus, franchement, je le démontrais par A plus B, quoi.
Oui, parce qu'en plus, t'avais des chiffres.
T'as
toutes les données de City Scoot, tu les connais. Bon. Elles sont stables en plus.
Alors, j'avais dans ma tête les anciennes données de City Scoot, j'avais pas les données récentes, tu vois, mais c'est les données. C'est un truc extraordinaire. On en parlait juste avant de prendre le micro, mais le comportement des utilisateurs, quelle que soit la ville, bon, il n'est pas le même selon les villes, mais le comportement des utilisateurs dans la même ville est le même tout le temps. C'est-à-dire que entre 2017 et 2019, chaque utilisateur, quel qu'il soit, utilisait des scouts chaque année 8,3 fois par mois. En moyenne sur l'année. Et chaque mois, d'année en année, il l'utilisait chaque mois autant, c'est pareil, avec un petit peu plus de variance, mais pas tellement plus. Mais le comportement était exactement le même. Donc, à partir du moment où tu connais ton taux de churn, ton taux d'acquisition et le comportement de tes.
Un
business qui est hyper prévisible. Après, voilà, il faut soigner tes coûts, il faut regarder si ton business model, donc, était celui de survivre, que les scooters survivent à leur durée de leasing, fonctionne bien. Tu vois, faut pas avoir de mauvaises surprises. On a eu des mauvaises surprises. On a eu les gilets jaunes qui nous ont brûlé 150 scooters. On s'est fait voler des batteries. Tu vois, ça, c'est des trucs auxquels on s'attendait pas. Par contre, on n'a jamais eu de vandalisme. Bon, à part les gilets jaunes, mais on n'a jamais eu de vandalisme ni de vol. On n'avait même pas de ligne sur le BP pour le vandalisme et le vol. Tu vois, donc ça te montre à quel point c'est un business qui est complètement différent du vélo ou de la trottinette. C'est que ça n'existe pas. Aucun accident grave tant que je ne dise pas de bêtises, en 80 millions de kilomètres, enfin en tout, jamais aucun accident grave sur City Scoot.
Waouh.
Je crois qu'en revanche, il y a eu un décès notoire qui était le fils Aleno. Il s'est fait rentrer dedans par une voiture, il était sur un City Scoot, mais bon, c'est pas la faute du scooter. Mais sinon, aucun accident grave. Donc, pour se faire très mal en scooter à 40 km/h, c'est déjà, tu roules jamais à 40 km/h en ville. Hein, tu es à 25 ou 30 max. Enfin, ça peut t'arriver d'aller un peu plus vite la nuit. Pour se tuer, c'est vraiment compliqué. Ou pour se faire très mal, c'est vraiment compliqué. Or, les scooters, je sais pas pourquoi, cette image de voyou, de truc hyper dangereux. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est le contraire. Tu vois.
En plus, tu pouvais pas faire des excès de vitesse en City Scooter.
Non.
Ça, comme ça, c'est réglé.
Voilà. Donc maintenant, alors ce qui m'a passionné quand même dans la fin de cette aventure, c'est toute la mission qu'ont eu les managers de transition. Je te dis, j'ai pas aimé la façon dont ils ont mené la mission, mais par contre, j'aurais adoré avoir la mission. Et c'est peut-être un truc que j'ai envie de faire en même temps que monter mes nouveaux projets. Alors,
ouais.
Ouais. C'est un truc. Là, je suis en train de passer une formation de moi, être DG ou CEO de retournement en crise. C'est un truc qui me passionnerait complètement. Voilà. En plus, je pense que ouais, moi perso, je fais partie des gens qui travaillent beaucoup mieux sous la pression, dans la difficulté que moi. Je pense que je suis bien meilleur quand c'est compliqué que quand c'est facile. En fait, moi, je pense pas être un manager de croissance où tout va bien, mais il faut faire un peu mieux. Je pense que je suis meilleur sous la pression, et donc j'aurais adoré faire ce qu'ils ont fait là pendant un an. Mais par contre, je pourrais pas faire que ça. Il faudrait que je monte quand même des projets en même temps. Voilà.
Et du coup, tu montes d'autres projets en parallèle là, c'est
ouais,
ça,
ouais, j'ai... Là, ouais, ouais, j'ai quatre projets. J'en ai un qui s'appelle Steed. Bon, on le voit, on l'a transformé là. Il est beaucoup mieux maintenant. Et puis en plus, j'ai pas besoin de fonds, donc c'est parfait. Ça va être encore du scooter électrique, mais bon, ça va sortir très, très vite là.
Ok.
Ouais, parce que comme j'ai pas besoin de fonds, je peux le lancer très vite. J'ai cherché des fonds pendant un an, mais sur un autre business model où j'avais besoin de lever des fonds, là j'ai pas besoin d'en lever, donc ça va être super.
C'est quoi un teasing, Steed, si tu veux?
Steed, tu pourras c'est du B2B.
Ok.
Mais les entreprises B2B pourront acheter des scouts, leur coût de revient sera 1€ par jour. Voilà, à partir de 1€ par jour, tu peux avoir un scooter pendant au moins 2 ans. Voilà, ce sera ton coût. Quelle que soit l'utilisation que tu fais du scooter. Donc, tu vois, c'est quand même moins cher que le métro et c'est moins cher que City Scoot. Donc, le teasing, c'est tes propriétaires de ton scoot et ton coût de revient hors assurance, pardon.
Ouais.
Par contre, c'est à partir de 1€, entre 1 et 2€ par jour selon le scooter que tu choisis. Voilà. C'est un bon
pas
teasing.
Mal.
Ouais.
Bon teasing.
Bon teasing. Non,
quand est-ce qu'on se connecte sur Steed pour voir.
Dans un mois, je pense.
Dans un mois.
Ouais. Dans un mois, on pourra se connecter sur Steed et tous ceux qui m'écoutent et qui ont une entreprise. Alors, ça marche grâce aux subventions un petit peu quand même, de l'Île-de-France notamment.
Ouais.
Mais il y a une promesse dans Steed que personne ne fait et qui fait que tu as ton scoot au coût de revient de 1€ par jour.
Magnifique. Voilà. Donc, dans un mois, donc mi-avril, disons.
Ouais. Disons mi-avril autour. J'ai un projet qui va. J'ai un projet qui est plus une plateforme fintech.
Ok.
Et qui, je pense, qui va révolutionner, j'ai pas peur de le dire.
Allez,
le monde,
c'est dit.
Les levées en seed et le monde du VC. Je te dis, ça me tient tellement à cœur que j'ai étudié le sujet à fond. Et je pense que je vais retourner,
le paradigme.
Ouais, je vais retourner le paradigme. Pour que il faut que ce soit, je pense, les entrepreneurs qui reprennent le pouvoir pendant les levées. Enfin, le pouvoir, j'y vais un peu fort. Mais je pense que le rapport de force doit être un petit peu, un peu réajusté. Voilà. Et moi, quand je vois des entrepreneurs qui montent des super projets en seed, tu vois, j'ai l'image des petits oiseaux, tu sais, qui sont dans leur nid et puis qui ouvrent le bec, qui attendent la béquée et qui a un gros VC qui arrive et qui leur donne un petit verre de terre comme ça en disant, mon coco, maintenant tu vas dépendre de moi parce que c'est moi ton papa, tu vois, ou ta maman.
Je veux mettre ce prompt dans Midjourney pour voir ce qu'il va nous mettre comme couverture.
j'ai découvert Midjourney l'autre jour, j'ai adoré à mon grand âge. Découvrir des trucs comme ça, pour moi, c'est la révolution. J'ai une plateforme, un peu le bon coin. Bon, je ne vais pas dire entre eux, mais une plateforme un peu spécialisée de mise en relation de produits d'occasion.
Ok.
Et puis j'ai une app qui va se plugger sur les bornes de recharge de voiture, qui va apporter des services. Voilà, je peux en dire plus non plus. Okay. Voilà.
Comment tu gères 4 nouveaux projets en même temps?
Écoute, je les écris, je les monte. Ceux-là, je ne serai pas opérationnel dessus.
Okay.
D'accord. Donc, je les monte. Je vais m'arranger pour faire... S'il y a des partenariats à faire, c'est moi qui vais m'en occuper. S'il y a quelques fonds à lever quand même, c'est moi qui vais m'en occuper. S'il faut parler à des banques, s'il faut parler à des choses, à des corporates, je vais m'en occuper. mais je vais plutôt laisser des équipes faire tout l'opérationnel, voilà, et puis suivre
un petit startup studio à toi, quoi.
Ouais, c'est ça, je vais regarder comment ça se passe, mais je vais être au départ, je vais être dans le montage de l'idée, je vais y être, d'accord, jusqu'à ce que ça ressemble à ce que j'avais en tête, et puis ensuite je laisserai faire. De toute façon, j'aurais pas le temps de m'en occuper des quatre en même temps. J'aurais même pas le temps de m'occuper probablement de un, surtout si je fais du management de transition, tu vois. Voilà. Et à mon temps perdu, je regarderai comment ça se passe le week-end. Je sais pas comment je vais faire ça. Mais il est pas possible pour moi. Il est pas possible pour moi de pas avoir un projet ou deux en cours. Voilà. Moi, je considère que l'entrepreneuriat, c'est pas une. Ça doit pas être un enfer, tu vois. Je pense non pas qu'il faut pas jamais se forcer à l'entrepreneuriat. Soit on se sent apte à diriger des hommes, des équipes, gérer des projets, monter des projets, prendre des risques surtout, savoir prendre des risques. La palpation du risque, pour moi, c'est un truc qui est essentiel. Soit on le sent pas, soit on l'a en soi, soit on l'a pas. Et quand on l'a en soi, je pense qu'on le sent. Sinon, faut pas se forcer. Faut jamais se forcer. Je pense qu'un entrepreneur qui se force, il y arrivera pas. Enfin, c'est pas en lisant des bouquins qu'on devient entrepreneur, à mon avis. Voilà.
C'est quoi ce qui te drive, toi, à part, enfin, justement, pourquoi ce...
Moi, je...
t'es tourné autant vers l'entrepreneuriat et qu'est-ce que tu trouves
Moi, j'aime bien gérer des hommes.
Ok.
J'aime bien gérer des équipes. J'adore ça. J'aime bien échanger les idées, même si alors pendant très longtemps j'ai pensé que toute idée qui ne venait pas de mon cerveau était une mauvaise idée. Bon, j'ai beaucoup changé en recrutant notamment chez Cityscoot, hein, je me suis aperçu que tous les gens que je recrutais, ils étaient tous meilleurs que moi en fait dans leur domaine, mais bon, collectivement ça formait un ensemble assez génial. Donc moi je me sentais apte à réunir toutes les à trier le grain de livret, si tu veux, et trouver certaines idées, les regarder, d'autres pas, etc. Mais enfin, en tout cas, dans leur spécialité, ils étaient tous meilleurs que moi. Enfin, moi, en marketing, je vois rien. En tech, je vois rien. En finance, je vois rien. Mais à trouver des idées, à les créer, c'est là que, ou à conduire des projets, c'est là que j'ai ma seule valeur ajoutée. Donc, moi, j'adore regrouper des intelligences et des capacités, à les mettre en œuvre et à les orchestrer, si tu veux. Voilà. Donc, moi, ça me drive énormément. Et puis surtout avoir un projet en cours, savoir s'il va marcher ou pas marcher, moi j'adore, c'est un peu comme regarder ton action en bourse, savoir si elle va monter, c'est un peu ça, tu vois. Il y a moi j'adore le gaming, d'accord. Bon, je suis plus joueur, hein. Je t'ai dit tout à l'heure avant qu'on commence, oui, oui. Que j'étais pro de blackjack pendant 2 ans, mais
Non, c'était dans le podcast déjà.
Ah, c'était dans le podcast, d'accord. De temps en temps, je le dis pas. Mais ok. Mais non, je suis plus joueur du tout. Moi, je fais pas de paris sportifs. Je joue pas aux cartes. Je fais rien du tout. Mais j'ai pas une seule action en bourse. Mais en revanche, de savoir si mon projet va marcher ou pas. Moi, si tu veux, quand j'ai vu mon premier client rouler, j'étais à la terrasse avenue des Ternes de l'Indiana Café et je vois un client. Donc, c'est. Alors, vous voyez des City Scoot tournés, mais c'était toujours un de mes employés qui testait un scoot ou un truc comme ça.
Pote,
Et là, je vois quelqu'un, c'était une jeune femme qui conduisait un City Scoot. Il y avait ses longs cheveux qui dépassaient du casque et tout. C'était ma première cliente que j'ai vue, donc ma première vente en fait. Ouais. Tu vois. Et là, je me suis dit. Ça, je suis en train de changer le monde. Je vais changer le monde. Je vais changer la vie des citadins, en tout cas, tu vois. D'ailleurs, la vie des citadins a été un peu changée. Ouais, parce que dans le même rail, ensuite, il y a eu les vélos, les trottinettes, etc. Tu vois, dans la même veine. Donc, c'est assez génial. Donc, je suis content de ça. J'ai pas tout perdu.
Non, ça, c'est sûr que ça a été transformant. Et on approche doucement de la fin. Merci d'avoir raconté tout ça. Est-ce que tu as des derniers conseils? Tu nous en as déjà passé pas mal, hein, je dois dire. Mais est-ce que tu as des derniers conseils pour ceux qui nous écoutent?
Bon, je sais pas qui t'écoute, mais disons que...
Alors, mettons pour des entrepreneurs qui voudraient se lancer soit dans la mobilité, soit plus largement.
Oui, moi, je pense qu'il faut... Prenez votre courage à deux mains, entrepreneur. Faites preuve de bon sens. Le bon sens prime avant la connaissance et l'intelligence, je pense. Le bon sens paysan, tu vois. Moi, je pense que juste avoir du bon sens... J'aurais adoré, par exemple, que notre gouvernement politique ne s'arme que de bon sens. Tu vois, je pense que le pays serait différent si les politiques avaient du courage et du bon sens. C'est la seule chose. Je pense que pour monter une entreprise, il faut juste avoir un peu de courage et un peu de bon sens. Et puis, il faut savoir un peu prendre des risques. Voilà. Et puis ce truc là, ce conseil, j'aurais jamais pu l'exprimer mieux que de voir un trou et remplir le trou. Tu vois un trou, tu essaies de le remplir, même si c'est un petit projet, puis tu passes à un autre trou, tu essaies de le remplir, et tu fais. Et tu peux conduire 10 projets en même temps comme ça. Hein. Le fondateur de Netflix, c'est ce qu'il a fait. Il avait à un moment, je crois, 30 ou 40 projets simultanés. Et il remplissait des petits trous comme ça. Donc voilà. Et puis surtout, faites attention aux cheveux. Enfin. Prenez garde à avoir un board avec, composé de gens qui sont à fond avec vous dans votre projet, voilà, et qui partagent votre vision. C'est plus important que l'argent.
C'est plus important que l'argent.
Ouais, je pense qu'il vaut, avoir, vaut mieux avoir deux fois moins d'argent, mais du bon argent que du mauvais argent. Voilà.
Super, bah écoute, on finira là-dessus. Merci beaucoup pour ce, pour toi, ce retour d'expérience.
Merci, David.
Encore une fois, j'ai la petite larme, mais c'est une belle histoire, c'est une très belle histoire, et merci de l'avoir raconté sans filtre. Et puis on suivra du coup les lancements, les quatre lancements qui arrivent, mais à commencer par Steed dès le mois prochain.
Ouais, t'inquiète pas, j'utilise beaucoup. Moi, je trouve que LinkedIn, c'est un outil absolument formidable. J'espère qu'on pourra. Moi, j'ai pas atteint les limites de la liberté qu'on peut avoir sur LinkedIn. Je sais qu'il y en a qui se font un peu, on se fait taper sur les doigts de temps en temps, mais moi, j'adore LinkedIn. Donc, t'inquiète pas, la façon dont j'utilise LinkedIn, les projets, tu les verras passer.
Si on veut te contacter, LinkedIn.
LinkedIn ou b.fleurose@gmail.com, qui est dans LinkedIn d'ailleurs, je crois. Voilà, c'est simple.
Ouais. Tout simplement.
Et je réponds. Alors, je fais partie de ceux. Contrairement à beaucoup de VC d'ailleurs, qui ne répondent jamais parce qu'ils pensent que les problèmes sont très importants, parce que c'est eux qui ont l'argent, je réponds à toutes mes sollicitations, toutes, sans exception. On m'écrit sur LinkedIn, je réponds quoi qu'il arrive, et en général, je réponds en moins de 2 heures. Voilà.
Je confirme, puisque c'est comme ça que je t'ai contacté pour le podcast, donc je peux en témoigner. Bah merci beaucoup encore une fois, et merci à tous
toi.
Ceux qui nous ont écoutés jusque là, et à très vite pour la suite.
Merci, salut David.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.